Festival des pionniers de la bande FM, 5 à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge Debeketch, diffusé en direct mercredi 24 mai 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 25 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. Vous venez d'entendre la voix de Roger Olyndre. Victoria n'est pas là. Mais Roger, le divin Marquis non plus. Et vous venez d'entendre la voix de Goffman. Roger remplace très avantageusement, finalement, dans un autre genre, Victoria.
J'espère, oui.
Hein? Mais les tentations sont moindres, quand même, il faut bien dire.
Un compliment qui devrait aller droit au cœur des deux concernés.
Oui. Bon, avant d'oublier, je vais faire une annonce, puis après on parlera d'autre chose. Samedi 10 juin 2006, à 10h, en l'église Saint-Thomas d'Aquin, place Saint-Thomas d'Aquin, Paris 7e, messe à la mémoire du général Raoul Salan. Alors je répète, samedi 10 juin 2006, à 10h, en l'église Saint-Thomas d'Aquin, place Saint-Thomas d'Aquin, Paris 7e. Est-ce que vous avez tous noté, messieurs? Je vois que Roger, Dominique et Rulin sortent leur stylo, même Goffman note. C'est bien. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, alors l'actualité. L'actualité, c'est... finalement, c'est toujours la même chose. On a du nouveau, mon cher Patrick, sur l'affaire... Claire Stream,
Il y a sûrement du nouveau, mais comme les sondages le montrent, c'est pas très intéressant, c'est pas très rigolo. Alors naturellement, on a pensé l'un et l'autre que le copain se chargerait de cette affaire-là. Moi, je préférerais dire aux auditeurs qu'ils sont certainement déçus de l'absence de notre divin Marquis, qu'on va pouvoir compenser, parce que cette année, Serge Debeketch est allé au cinéma une fois, et c'est aujourd'hui, hein, comme on dit dans la blague paracontable, et que moi je suis allé au théâtre des Deux Ânes. D'ailleurs, on aura Jean Amadou, bien connu de nos auditeurs et des autres, dans une demi-heure à peu près. Je voudrais aussi...
J'en ai une bonne.
Vous êtes rapide au jeu des chaises musicales.
On sera de mèche avec Amadou.
En effet.
Ah, je pourrais.
Donc on va pouvoir la madouer. Un partout, la balle au centre.
On sent quand même l'absence du Marquis, hein. C'est un peu lourd.
J'ai un scoop quand même, Serge, faute d'être au courant de l'affaire Clearstream. Vous savez que toute la bonne presse, la grosse presse, a hurlé parce que le sélectionneur de l'équipe de France de football avait réservé à SFR, le prestataire de services téléphoniques, ses commentaires sur la liste des joueurs de l'équipe de France. Et voilà, alors bien entendu c'était en exclusivité et ce monsieur qui est censé représenter la nation avait vendu ses déclarations. Et alors on peut supposer qu'elles sont vendues très cher parce que voilà ce qu'il a déclaré. En exclusivité, donc très cher payé à SFR. J'ouvre les guillemets. Que Fabien soit le gardien numéro 1, ce n'est pas une surprise. cela aurait été coupé, cela n'aurait pas été une surprise non plus. C'était du 50-50, il fallait faire un choix. Cela n'a pas été simple de choisir. Alors, on comprend que la grosse presse soit furieuse d'avoir été privée de ses commentaires.
Non, mais je vous ai dit là.
D'un monsieur qui, je termine là-dessus, quand même, sélectionne, choisit les joueurs sur leur dossier astrologique.
Ouais, enfin, ça, c'est ce qu'il a, enfin, c'est ce qu'on a raconté qu'il avait dit, mais, je trouve intéressant d'avoir une démonstration, là, parce que c'est vrai que j'étais assez injuste pendant des années avec le football. J'ai dit que c'était 22 imbéciles qui couraient après un ballon devant 50 000 couillons qui les regardaient après avoir payé leur place très cher. Il y avait qu'à donner 22 ballons, comme ça, ils auraient moins emmerdé le monde. Mais, en fait, c'est injuste parce que là, on a la preuve que, comment il s'appelle ce monsieur?
Domenech, le sélectionneur.
On a la preuve que c'est un des hauts lieux de l'intelligence française. Et je blague pas en disant ça. Parce que de tous les gens qui s'occupent du foot, les spectateurs, les joueurs, les entraîneurs, les coachs et les gens de la FIFA, c'est ça? La FIFA?
La FIFA, oui, mais la
c'est
FIFA.
C'est probablement lui le moins bête, quoi.
La FIFA qui fait l'objet d'un livre aux presses de la Cité qui s'appelle Carton Rouge, qui est interdit en Suisse, boycotté en Allemagne et qui est, paraît-il, très très édifiant pour ceux qui s'intéressent encore. Alors puisque je cherche, je vois que vous vous intéressez au football brusquement, vous m'obligez à en mettre une couche. Vous brûlez certainement. Excusez-moi, on vous entend distinctement jusqu'à Tokyo, là, monsieur. Alors écrivez plutôt. Écrivez. Je vous excuse pour cette fois. Vous brûlez certainement de savoir comment. Franck Ribéry, votre idole. Franck Ribéry, vous savez, le blanc de l'équipe de France de football.
Je connaissais l'abbé Ribéry, mais pas...
Je vois que vous vous affolez. Ouais. Il y a un blanc dans l'équipe de France de football, mais
c'est
il vient...
C'est un truc raciste, ça.
Il vient de se convertir à l'islam, rassurez-vous. Alors, vous voulez savoir comment il a été sélectionné, puis maintenant que vous vous intéressez au football, alors voilà ce que Domenech en dit. Le dernier nom qu'on a mis, c'est Franck Ribéry. C'est pas qu'on hésitait. Mais quand on fait une liste, on commence par les gardiens de but et on finit par les attaquants. Et le dernier attaquant que j'ai mis, c'est Franck Ribéry. Voilà.
Alors le chuchotement que vous avez entendu tout à l'heure, parce que pour,
c'est pas un
pour Dominique, il faut savoir que c'est un chuchotement.
J'ai remarqué qu'il y avait une voix énorme, ce monsieur.
Oui, mais qu'il n'arrive pas à couvrir quand même. Alors, le chuchotement, mais j'ai remarqué qu'effectivement, le plus misérable de cette bande de jeunes sélectionnés gagne 2 millions d'euros par mois. Et je voudrais quand même dire un truc là-dessus, enfin une chose là-dessus, c'est que on nous explique l'équipe bleu blanc beurre,
officiellement c'est black blanc beurre, mais Finkielkraut l'appelle black risée de l'Europe.
Ouais, mais alors on nous dit mais c'est très bien, c'est un signe d'intégration, c'est un exemple pour la jeunesse des cités, enfin le baratin habituel et tout. Moi je pense que c'est exactement le contraire qui se passe, parce que quand des gosses des cités, qui sont déjà pas très futés, qui d'autre part n'ont rien à foutre, voient que des gens de leur ethnie, simplement parce qu'ils sont capables de pousser une balle avec un ballon, gagnent 2 millions par an d'euros, et que les profs qu'ils ont à l'école et qui entrent en classe comme on rentre dans la cage aux fauves vont gagner dans leur vie même pas le quart de ce que leur petit copain footballeur gagne dans l'année, ils se disent que c'est vraiment pas trop la peine de s'emmerder. Il suffit de jouer à la baballe. Et après tout, comme visiblement, puisque toute la bande est de la même couleur, visiblement, il suffit d'appartenir à la bonne ethnie pour entrer dans l'équipe de France. Que là, il n'y a pas de discrimination. Hein. Eh ben, c'est pas la peine donc de se casser le tronc. On va se présenter à la FIFA et on va être immédiatement embauché après une petite démonstration de balle au pied. Ce syndrome, il est augmenté par le fait que on nous montre des films qui sont toujours les mêmes. C'est toujours le gosse des bidonvilles, le gosse des favelas, qui se révèle un génie de la baballe et qui devient multimilliardaire après avoir subi deux ou trois inconvénients, etc.
La meilleure preuve de ce que vous dites là, Serge, qui est nettement moins drôle d'un seul coup, c'est qu'il y a 500 000 emplois non pourvus en France. Ouais. C'est la croix et la bannière pour trouver un cuisinier ou un maçon.
C'est évident qu'un gosse qui joue dans la cour de sa cité et à qui on dit « Ah, dis donc, t'as fait un, je sais pas quoi, comment ils appellent ça, un tac... »
Un maçon qui sait jouer au football, il risque de trouver du boulot. Ouais. Un cuisinier, footballeur aussi.
Mais un gosse de la cité à qui on dit « Tiens, dis donc, il y a un boulot de plonge qui est intéressant à saisir à tel endroit. » Et pendant ce temps-là, un autre copain lui dit « Dis donc, t'es pas mauvais, toi, hein, au foot. T'as un bon tacle. » C'est ça qu'on dit, non ? Je sais pas, enfin, peu importe. Eh bien, le gosse, il dit « Non, le boulot de plonge, je vais attendre. Je vais pas le prendre parce que ça m'empêcherait de m'entraîner. » Et résultat, le boulot de plonge, il reste sans serveur, si j'ose dire. Et le gosse, il va rester à la porte de la FIFA pendant quelques temps, en s'en foutant d'ailleurs totalement, puisque de toute façon, il est assuré d'être pris en charge par les ACDIC. On va lui organiser des vacances à la mer, on va lui organiser des sorties, on va s'occuper de lui faire des salles de sport auxquelles il foudra le feu, le cas échéant, quand ça lui prendra, etc., etc. Donc, on entretient un système, quoi, comme ça, voilà.
Oui, mais enfin, il faut quand même...
Roger Olindre.
Il faut quand même mettre les responsabilités là où elles sont. Bon, au même titre hein, que le gars qui est chez lui, hein, qui gagne pas un rond en travaillant, en trimant, sait que s'il vit en France, hein, il gagnera 45 fois plus à ne rien foutre. Bon, il vient, bon, le gosse qui voit ce que peuvent toucher tous ces gens en faisant du football, bon, il peut en rêver. Enfin, mais moi, quand j'étais gosse, bon, c'était différent. Moi, je rêvais d'être missionnaire ou méhariste. Bon, c'est toute une époque. Mais pourquoi je pensais à ça? Je pensais à ça parce que les professeurs nous parlaient de la Grande France, nous parlaient de tout un tas de choses. Ces jeunes dans les quartiers, bon, ils sont peut-être, ils méritent peut-être de temps en temps des tartes, mais c'est quand même l'éducation nationale qui les fait ce qu'ils font. Et sinon, si on ne trouve pas de gens pour certains emplois, moi je regrette, mais je fais rechercher à l'Assemblée nationale le journal officiel. Il y a 20 ans, exactement 20 ans, hein, quand j'étais député Front National, j'avais proposé l'apprentissage à 14 ans. Bon, et bien sûr, tous les bancs, je me suis fait huer, insulter, ils gueulaient jeunesse à Pétain. Sur les bancs socialistes et communistes, les mecs me saluaient le bras levé, parce que c'était nazi, c'était tout ce que tu veux, de proposer l'apprentissage à 14 ans. Alors que comme chaque intervention que faisait un député du groupe et moi-même, quand on montait à la tribune, on montait avec ce qu'il fallait et on savait expliquer les choses telles qu'elles devaient être expliquées. Et moi, je m'étais bien gardé d'annoncer simplement cela. J'avais dit qu'un gosse, quand ne viennent pas nous dire que c'est uniquement les gosses d'ouvriers qu'on va envoyer en apprentissage, pendant que les autres auront les bons boulots et autres, j'avais expliqué que rentrer en apprentissage, ça permettait aux gosses aussi de continuer ses études, peut-être de grimper dans la hiérarchie et autres. Ben, ils n'en voulaient pas. Donc, ce qui se passe dans les banlieues aujourd'hui, c'est voulu, il n'y a pas de problème. Et ces histoires de football, tout le monde sait que c'est l'arnaque la plus totale, hein, et que tout le monde s'en fout plein les fouilles. Monsieur Tapie a quand même été accusé un certain nombre de fois de choses très sérieuses. Ça ne l'a pas empêché de devenir ministre, ça ne l'a pas empêché de faire du cinéma, ça ne l'a pas empêché de faire du théâtre, et il vient toujours maintenant à la radio donner son avis hein, sur ce qui va mal dans les équipes de football.
Bah, dans un pays de voyous, c'est tout à fait
l'ensemble de notre pays morale, où les choses sont en totalité à revoir.
À propos de crise de l'emploi, il y a un auditeur qui désire savoir pendant combien de temps Serge De Becquet va-t-il remplacer Daniel Amiche.
Pas mal vu. Tu l'as inventé celle-là?
Non, ça vient du téléphone tout droit.
Alors, des interventions d'auditeurs sur le foot. Je suis voisin de Peter Handke, nous dit un auditeur qui ajoute qu'il n'est pas particulièrement de gauche car il avait soutenu l'action de la droite autrichienne. Voilà. Mais moi, je n'ai pas dit qu'ils étaient de gauche. Manquerait-il qu'ils soient de gauche en plus. Il y a 2 millions par mois, ils peuvent avoir la courtoisie d'être de droite, non? Enfin, la droite pourrie, pas la vraie. Moi, si on me donne 2 millions par mois, je veux bien être de gauche. Non. Qu'est-ce que vous en pensez, Goffin?
Tout le monde est à vendre, alors. Mais non, moi, je payais.
Vous connaissez la vieille histoire. Tout le monde est à vendre, c'est une question de prix. Hein. C'est une version qu'on ne peut pas raconter à la radio de cette histoire. Alors, il y a aussi des... je n'arrive pas à lire. Des goales. Ah, des goales qui sont blancs. Ben oui, bien sûr. Monsieur, comment vous dites, là?
Non, mais entre nous, soit dit, moi, je pense qu'il faudrait quand même régler une fois pour toutes ce problème et dire ce qu'on pense, puisqu'on n'a malheureusement plus le droit de dire ce qu'on pense sans être condamné. Moi, spécialement, et je connais un certain nombre d'amis, hein, il y en a marre d'être traité de raciste pour tout. Enfin, je pense que l'équipe de France devrait représenter l'ensemble de la France. Bon, alors, il y a des minorités visibles, entre autres les blanc. J'aimerais bien que de temps en temps un gars de la minorité visible blanc soit dans l'équipe de France. Ça n'empêche pas que je ne nie pas l'appartenance française aux gens de couleur qui sont français, mais encore faudrait-il qu'on comprenne parmi eux, mais qu'on arrête aussi de prendre des gens qui sont même pas français. Hein, parce qu'on peut être de couleur et français, et moi je me bats pour que les gens de couleur soient français en France, mais là, à l'heure actuelle, on prend des gens de toutes les couleurs, sauf en leur demandant la nationalité française, et en appelle ça les représentants de l'équipe de France. Je pense que c'est proprement scandaleux.
Enfin, moi, pour ma part, étant donné que je considère que le foot est un sport d'imbéciles, que ce soit des étrangers qui le font,
oui, mais enfin, c'est
ça
un,
ne gêne
c'est
pas du tout.
Oui, oui, c'est quand même un truc de société. Il ne faut pas... Il faut, oui, quand même, oui, pas, faut quand même pas...
Société pas mondiale.
On ne peut pas nous accuser, nous, de nous ranger hein, derrière la meute. Bon, c'est quand même un sport qui plaît à pas mal de gens, puis il n'y a pas que des abrutis. Qui regardent le foot et il n'y a, pas que des abrutis qui jouent au foot.
Je ne dis pas qu'il n'y a que des... Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est un sport. Par exemple, le rugby est un sport de voyous, mais pratiqué par des gentlemen. Donc le football est un sport d'imbéciles, pratiqué parfois par des gens intelligents. C'est du même ordre, exactement.
Oui, c'est sûr.
Voilà. Monsieur Hérulin.
Pour compléter ce que disait Roger, qui a l'air d'oublier que ces braves gens ont la double nationalité, ils ne sont pas étrangers, ils retournent à l'équipe du Sénégal, à l'équipe du Tchad ou de n'importe où le jour suivant. Hein.
Je suis d'accord avec toi, il y a tout un tas de choses à revoir, mais enfin c'est mal barré quoi.
Je laisse la conclusion de ce débat rapide à un auditeur. À présent qu'il n'existe plus d'équipe de France de football, je soutiens la Serbie et l'Argentine. Ça va faire plaisir à Monsieur l'abbé Garcia. C'est ma façon de faire l'Europe. Vous voyez, vous êtes même et à Monsieur De Ocampo, vous êtes même intégré dans l'Europe du coup. L'Europe du foot comprend l'Argentine. On va peut-être commencer à gagner des matchs là. Bien, on nous demande de parler de l'affaire Gollnisch. Alors, bien sûr, l'affaire Gollnisch, nous dit cette auditrice, c'est un scandale parce que. Les instances professionnelles, les instances universitaires ont décidé de la suspension de Bruno Gollnisch de ses fonctions de professeur pour 5 ans avec suppression de la moitié de son salaire. Moi, j'ai un petit commentaire à faire là-dessus. Le premier commentaire qui est évident, c'est que Bruno Gollnisch a bénéficié d'un non-lieu dans cette affaire, puisque le juge non seulement a décidé le non-lieu, mais il a poursuivi les accusateurs de Gollnisch, ce que je trouve vraiment, pour une fois qu'on a un magistrat qui a quelque chose sous la robe, ça fait plaisir de saluer son courage et sa détermination. Maintenant, pour le reste... je trouve qu'il y a un formidable aveu dans le fait de suspendre quelqu'un de ses fonctions, de ses activités professionnelles pendant 5 ans, en lui maintenant la moitié de son traitement. Parce qu'il est évident que ces gens-là ne font pas ça pour faire plaisir à Bruno Gollnisch. Ils n'ont absolument pas envie de faire plaisir à Bruno Gollnisch. Alors qu'est-ce que ça veut dire de suspendre Bruno Gollnisch de ses fonctions pendant 5 ans, c'est-à-dire que normalement il n'a pas travaillé pendant 5 ans, tout en lui gardant la moitié de son salaire. Autrement dit, pour dire clairement les choses, il va être payé pendant 5 ans la moitié de son salaire à ne rien foutre. C'est clair, ça. Enfin, c'est ce qu'ils ont dans la tête. C'est pas pour faire plaisir à Gollnisch, c'est pour faire plaisir à qui? Mais c'est tout simplement pour ne pas faire une jurisprudence nouvelle dans un système qui existe depuis toujours. C'est-à-dire que quel que soit le crime ou le délit que commet un prof, qu'il ait sodomisé un petit garçon, un instituteur sodomise un petit garçon dans un couloir de l'école, il met pas foutu en prison. Il y a des centaines d'exemples, parce qu'il est protégé par ses syndicats, il est protégé par l'éducation nationale, et il est protégé par la maçonnerie à laquelle il appartient généralement. Il est déplacé. Il y a eu un exemple comme ça, récent, il y a quelques années, un directeur d'école dans Paris a été pris en flagrant délit. Normalement, il aurait dû aller en tôle et y rester pour 25 ans minimum, c'est-à-dire jusqu'au moment où il aurait pu plus se servir de son petit matériel. Eh bien, pas du tout. Il a été transféré dans une autre école où il s'est empressé de recommencer, bien entendu. Ce mec était un dignitaire maçonnique connu, il a été protégé par les loges. Mais il a continué. Et quand on suspend un prof qui fait des choses comme ça, ou qui se livre à d'autres malversations, on lui maintient la moitié de son salaire. Et ces mecs se sont dit, c'est des comportements de mafieux. Si on prive Gollnisch de la moitié de son salaire au motif qu'il n'exerce plus, parce qu'il est interdit d'exercice, on ne pourra pas faire autrement que d'appliquer la même règle à nos copains. Donc ils ont préféré maintenir la moitié du traitement de Gollnisch plutôt que d'envisager de supprimer la totalité du traitement de leurs futurs copains qui vont aller en tôle ou qui vont être punis ou sanctionnés ou interdits d'exercice de leur profession. On vit dans un pays de mafia.
Et en plus, cet organisme dont tu as le nom, là, je n'ai pas sous les yeux. C'est un truc de discipline intérieure aux facultés et à l'éducation nationale. De quel droit vont-ils saquer un professeur en tant que politique au sujet d'une déclaration politique faite en dehors de ses cours et en dehors de l'université? Hein, ça devient quand même de plus en plus scandaleux.
Oui, d'autant qu'on n'a pas d'exemple contraire. Hein. On n'a aucun exemple de professeur de gauche qui ayant fait des déclarations politiques graves, oui. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de Gollnisch, aurait été sanctionné par l'université. Il y a même mieux. Il y a même des types comme Gessmar et compagnie qui ayant été condamnés à de lourdes peines au pénal pour des activités anti-françaises, des activités qui ont mis en danger la vie des citoyens, après avoir fait de la prison, alors que c'est impossible normalement à un fonctionnaire d'accéder à la fonction publique si on a fait de la prison, ont été intégrés dans la haute fonction publique. Monsieur Gessmar, il est inspecteur général de l'éducation nationale ou des universités. Mais j'ai vu mieux, j'ai été témoin dans un procès, je crois que je l'ai déjà raconté, de la scène suivante. Il y avait deux prévenus ont comparu. Un était un Serbe qui avait acheté sous le pont de Saint-Ouen, enfin sous le pont du périphérique à Saint-Ouen, un jour de puces. Il avait acheté un marchand à la sauvette qui vendait au déballé sous le pont un briquet. Bon, il a donné 10 balles ou 20 balles, je sais pas, il est parti avec son briquet. 50 mètres plus loin, les flics l'ont arrêté et ils lui ont dit qu'est-ce que vous avez là? Il a dit, voilà, c'est un briquet que j'ai acheté. Ils l'ont embarqué. Il a été condamné. Lors du procès, il a expliqué qu'il avait acheté ce briquet parce que c'était un briquet du pont, il voulait faire un cadeau à sa femme. Il était primo-délinquant, il n'avait jamais été condamné, il avait un travail. Il a été condamné à 2 mois de prison ferme avec arrestation à l'audience. Pour recel.
Contrefaçon.
Oui. Non, c'était pas une contrefaçon, c'était un briquet volé.
Ah.
Le type s'est évanoui à l'audience. Parce qu'il n'a pas compris d'abord. Il s'est avancé vers le tribunal, il a reçu la sentence, il est retourné vers l'arrière, et puis il s'est interrogé. Il est revenu vers le greffier, il a dit quoi? Et le greffier lui a dit 2 mois de prison ferme. Et pof, on a vu le type tomber par terre.
Et Youssouf Fofana, pendant ce temps-là, est en circulation pendant 12 ans, ouais. Jusqu'à ce qu'il torture à mort un pauvre malheureux.
Le même jour, a comparu une jeune fille, très bien, qui était accusée d'avoir volé des vêtements en entrant dans une cabine d'essayage d'un magasin, où elle avait mis sous sa robe plusieurs autres robes qu'elle avait roulées et elle était partie avec. Elle s'est fait prendre. Là, il y avait un vol qualifié. Elle a été arrêtée. Elle comparaissait devant le tribunal. Et le tribunal lui dit, mademoiselle, quelle est votre profession? Je suis étudiante. Étudiante en quoi? Étudiante en lettres. Quels sont vos projets? Eh bien, je voudrais être prof de lettres. Bien. Nous allons nous retirer, le tribunal va se retirer, il va délibérer. Et quand ils sont revenus, alors mademoiselle Schmilblick, le tribunal vous inflige 2 mois avec sursis, sans inscription au casier judiciaire pour ne pas nuire à votre future carrière d'enseignante. Oui. Le même jour, hein. Donc, après, quand on y dit, quand j'entends quelqu'un me dire « Je fais confiance à la justice de mon pays », je sais que j'ai affaire à un menteur ou à un imbécile.
Pour revenir un instant sur l'affaire Gollnisch, rappelons qu'il était dans ce studio il y a quelques semaines et qu'il nous a expliqué, qu'il nous a raconté comment les instances juridiques de Lyon, de sa bonne ville de Lyon, l'avaient non seulement relaxé, mais avaient inculpé la plupart de ses calomniateurs. Alors, il faut comprendre que les instances universitaires dont nous venons de parler, se sont donnés à tâche, à cœur, de contredire les instances juridiques et d'envenimer l'affaire. Qui a démarré, je le rappelle quand même, pour ceux qui ont manqué un épisode, l'année dernière, quand M. Gollnisch a déclaré sur les questions insistantes d'un journaliste, deux points ouvrez les guillemets, je ne nie pas l'existence des chambres à gaz homicides, point. Mais je ne suis pas un spécialiste de la question, et je pense que les historiens devraient pouvoir en discuter librement, fermer les guillemets, ce qui a été repris dans une pétition maintenant célèbre, quelques mois après, par des centaines d'historiens et d'intellectuels de premier plan, je veux dire de gauche et politiquement correct.
Mais dans mon bouquin, dans le dernier bouquin dont parlait Serge tout à l'heure, je parle de l'affaire Gollnisch sur une vingtaine de pages, et je cite les journaux qui ont repris cette phrase sans, il faut reconnaître, sans rien changer. Ils n'ont pas changé une virgule, ils n'ont pas changé un mot. Donc cette phrase n'est pas condamnable. Eh bien, les gars la reproduisent dans leur journal et mettent la suite disant c'est honteux, c'est scandaleux, il a dit ça. Comme quand Le Pen va déclarer, il est bien certain que l'occupation allemande en France a été moins terrible qu'en Belgique ou surtout en Pologne. Bon, les vrais historiens disent, mais c'est certain. Eh bien, il a quand même été condamné 2 fois, dont la dernière fois à 20 000 euros d'amende, plus demande de ceci, demande de cela. Il est quand même bien sûr et certain qu'on n'a plus qu'un droit dans notre pays, c'est fermer sa gueule, c'est tout.
Eh bien, on ferme notre gueule, on dirait.
J'étais en train de chercher quelque chose que j'avais mis de côté, mais que je ne trouve pas, parce que je suis arrivé à mettre en quelques minutes autant de désordre sur cette table que sur celle de mon bureau au Libre Journal, ce qui est quand même pas mal. Voilà, un auditeur, ça n'a rien à voir, mais un auditeur nous téléphone, nous envoie un fax, en nous disant une révélation dans l'ouvrage de Leslie Varenne et Philippe Blanchard, Sécurité sociale, main basse sur le trou. Je trouve le titre un peu aventureux. La CADES, Caisse d'amortissement de la dette sociale, a des comptes chez Clearstream, dit-on. Et il ajoute, c'est peut-être cela la véritable affaire Clearstream. Autrement dit, les gouvernements n'ont pas voulu appliquer les directives européennes liées à l'abrogation du monopole de la Sécu. Ils n'ont pas voulu cela pour continuer à nous spolier sur la CSG, la CRDS et autres cotisations sociales, et ce, au travers des détournements de fonds, sachant l'inversion démographique, actif et inactif, qui se produit en ce moment en 2006. D'autre part, l'affaire Clearstream est liée à l'affaire des frégates de Taïwan, laquelle est liée à l'affaire de la MNEF. Toutes les affaires politico-financières sont liées. Bien sûr, parce que c'est la même bande qui s'en occupe, donc c'est... Comme dans la mafia de Chicago, il y a des gens qui s'occupent des machines à sous. Pardon. Ceux qui s'occupent des blanchisseries, des boulangeries. Chacun son milieu.
Ils se répartissent les quartiers et là, ils se répartissent les banques. Hein. Merci.
Voilà. Voulez-vous nous parler aussi du professeur Leruse ? Enseignant aux universités de Rennes, physiologie électromagnétique, notre expert européen, parce qu'il a dénoncé les crimes commis par l'utilisation de générateurs, il a été muté dans un LEP d'ignorants, censuré à TF1, et on lui a supprimé son laboratoire. Ça, il faut savoir quand même que là-dessus, il y a une affaire extrêmement grave. Là-dessous, plus exactement, il y a une affaire extrêmement grave qui vise par tous les moyens à cacher la vérité sur l'extraordinaire nocivité des radiations électromagnétiques qui couvrent littéralement la France d'un réseau très serré. Il n'y a pratiquement plus un endroit en France où on peut échapper à ça. Et ça fait des ravages, ça fait des véritables ravages. Et un jour ou l'autre, il faudra quand même se mobiliser sérieusement pour obtenir des explications là-dessus, parce que tout le système, toute la formidable puissance du mondialisme, d'abord tire son fric du pactole gigantesque que représente... par exemple, les télécommunications par téléphone portable, mais aussi la multiplication des chaînes hertziennes. Et véritablement, on est empoisonné, mais on est empoisonné par ces gens-là, qui en même temps développent de véritables milices qui terrorisent les gens pour les empêcher de parler, ou qui les font passer pour fous quand les gens viennent vous voir en vous disant... J'habite à 10 mètres d'une antenne réémettrice, j'ai des maux de tête effroyables et tout. Alors on vous explique que c'est des malades mentaux. Ça ne pourra pas durer très longtemps. Il faudra qu'un jour ces choses-là soient tirées au clair. Ce qui est très intéressant, ce qui est très révélateur, c'est que il n'y a pas un seul mouvement politique qui s'en occupe. Il n'y a pas, surtout pas, un mouvement écologiste qui s'en occupe. Les écolos, il faut comprendre ça une fois pour toutes, ne sont que des créatures, sont des marionnettes de certains, de certaines puissances, de certains lobbies extraordinairement puissants, comme le lobby des pétroles. Parce que si les écolos sont pour, contre la puissance, enfin l'énergie nucléaire, c'est uniquement parce qu'ils sont rincés par les pétroliers. Les pays arabes n'ont même plus du tout le contrôle de leur pétrole. Oui. Tout ça appartient à une espèce de formidable machine qui a été fabriquée par les Anglais au début du siècle et qui maintenant est entre les mains des Américains.
Il y a une chose qu'il faut quand même bien savoir. Moi, j'ai la prétention d'être un militant et de me battre. Bon. Pendant des années, en tant qu'écrivain, en tant que journaliste, en tant qu'homme politique, j'ai lu toute la presse que je continue à lire. Et pendant des années, j'ai annoté et j'ai mis de côté ce que je trouvais scandaleux. Eh bien, j'arrête de mettre de côté ce que je trouve scandaleux parce que je ne pourrai plus rentrer chez moi bientôt. L'appartement sera plein. Hein, de ce que je découpe, de ce que je dois garder pour demain faire une intervention ou après-demain, ou si jamais nous avons dans notre pays les responsabilités qui nous reviennent de droit, on puisse intervenir à la Chambre ou autre. C'est que tous les jours, il y a des choses très très graves, hein, et tu reproches aux Verts de ne pas s'en occuper, mais les Verts, c'est le degré zéro de la politique. Il y a qu'à voir que avec M. Delanoë à Paris, moi j'ai des bureaux dans un quartier, dans le 15e, je trouvais à me garer et gentiment, c'était un quartier correct et tout. Bon, ils mettent des interdictions de stationner absolument partout, ils laissent la moitié de la chaussée pour les bus qui en ont besoin d'un tiers. Enfin, ce sont des fous. Et politiquement, j'irai pas plus loin, mais bon, il y a beaucoup à dire. Mais les autres partis politiques, il faut quand même bien savoir qu'on ne peut pas s'occuper de tout. Et qu'en plus, on peut dire des choses aussi importantes que l'on veut, et intelligemment et poliment, si ça n'est pas repris, ça ne sert strictement à rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras? Non, mais on va à un dîner débat, 80 personnes, à une réunion, 120 personnes, mais ça ne va pas plus loin. Ces choses ne pourraient être saquées que si on avait la télévision et des émissions importantes.
Voilà, on va faire un petit insert, pour se remettre un petit peu de gaieté dans ce débat, enfin dans cette soirée. Nous avons un invité surprise, mon cher Patrick Goffman. Est-ce que vous voulez nous dire de quoi il s'agit?
Allô, Jean Amadou?
Oui, bonjour.
Comment allez-vous? Oui, bonsoir. Écoutez, j'étais hier au Théâtre des Deux Indes, boulevard de Clichy, et je dois commencer, ça n'est pas pour vous amadouer comme Serge le suggérait tout à l'heure, vous l'avez peut-être entendu, je dois vous dire d'emblée que vous avez rajeuni depuis 2 ans.
Oh, c'est gentil ça, je ne sais pas, je vais aller regarder ça tout à l'heure dans ma glace, mais le fait que vous me le disiez déjà me remplit d'aise, vous avoir déjà rajeuni depuis 30 secondes. Voyez.
Vous le constaterez vous-même vendredi, après-demain, vendredi 26 mai, si vous êtes assez narcissique pour vous regarder sur Paris Première à 20h50,
Je croirais quand même. Comme c'est en direct, je pourrais pas me regarder, mais j'en croirais.
Bien. Oui, ben, vous verrez que vous avez un débit, une mémoire impressionnante. Alors, de quoi parlons-nous? De Villepy et Sarkozyn, le spectacle de chansonnier du Théâtre des Deux Ânes. Alors, j'ai une première question. Vous le dites vous-même pendant le spectacle, c'est Pierre Douglas qui le dit, je crois. Villepin peut sauter d'un jour à l'autre. Qu'est-ce que vous allez devenir?
Vous savez, on est un petit peu, nous, depuis très très longtemps, hein, soumis à ce genre de problème. Hein. Quand vous faites de l'actualité, quand vous parlez de l'actualité pour essayer de faire rire vos contemporains, qui étaient des métiers les plus difficiles au monde, comme le disait déjà Molière, et que vous choisissez ce créneau, évidemment, vous êtes soumis à tous les aléas, si je puis dire, de la politique. Ça nous arrive relativement fréquemment. En 1997, on avait un tour, moi, chacun de nous parlait de Juppé, Premier ministre. Bon, il se trouve que Chirac dissout l'Assemblée, on se retrouve avec Jospin, il faut refaire tout. Eh ben, on le refait à ce moment-là. Et donc, si Villepin saute, on avisera, on verra bien, on trouvera toujours un moyen d'en tomber sur nos pieds. On a fait ça pendant toute notre carrière, Jacques Maillot, Douglas et moi, on fait ça sans arrêt, donc c'est pas un problème.
Oui, d'ailleurs, Villepin ne va peut-être pas disparaître corps et bien, fumé.
Non, enfin, s'il disparaît de la scène politique, imaginons qu'il ne soit plus Premier ministre, que je ne lui souhaite pas d'ailleurs, parce que je veux pas de mal à cet homme, il est évident qu'il faudra changer, et le titre du spectacle, et ce qu'on dit dedans.
Mais pardonnez-moi, Jean-Madou, Serge de Becquet, vous dites que vous ne lui voulez pas de mal, et donc vous ne souhaitez pas qu'il ne soit plus Premier ministre, mais dans la situation actuelle...
Moi je pense qu'on donne, moi.
Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que dans la situation actuelle, ça serait peut-être justement lui souhaiter du bien que d'espérer qu'il ne sera plus Premier ministre, parce que le capitaine du Titanic, si on l'avait proposé de descendre du bateau 2 heures avant la rencontre avec l'iceberg, il aurait peut-être été content qu'on le prévienne.
Le capitaine du Titanic, vraisemblablement. Mais s'il y avait eu là un journaliste qui filmait, je veux dire, il faisait son métier de filmer les événements.
Ah, voilà.
Et après tout, il aurait souhaité, bien sûr, que le capitaine du Titanic fût sauvé. Mais bon, je veux dire, on a avisé tellement de fois que c'est pas un gros problème finalement.
J'ai une autre question, Jean Madou. Je suis peut-être naïf, mais vous allez me le dire si je suis naïf, parce que donc j'ai...
Ça m'étonnerait, vous êtes journaliste, j'en connais pas beaucoup de naïfs.
Bon, mettons que je fais le naïf, l'âne pour avoir du son. Donc j'ai passé une excellente soirée dans votre petite bonbonnière, 150 ou 200 places, je crois, du Théâtre des Deux Ânes hier. 300 quand même. 300. Bon, c'était plein comme un œuf, tout le monde riait à gorge déployée. Mais en même temps que je riais, moi j'avais une espèce d'inquiétude, parce que Pierre Douglas, par exemple, excusez-moi de le citer une fois de plus, il a une façon un peu spéciale quand même d'expliquer que c'est pas gentil de se moquer des homosexuels. La maire de Paris, je ne sais pas, on prend plein la tête. Je veux dire, par moments, j'ai trouvé que vous étiez très audacieux, que vous preniez vraiment des risques, que vous étiez passible peut-être des fautes à la halle, de 1 an de prison, 40 000 euros d'amende. Est-ce que je suis naïf ou bien est-ce que délibérément vous prenez le risque pour faire rire très fort vos spectateurs?
Écoutez, très honnêtement, moi j'aborde pas ce problème quand je parle des hommes politiques. Le problème de Delanoé, c'est son problème à lui. Je ne juge pas tout ce que fait Pierre Douglas, pas plus qu'il ne juge ce que je fais. Mais j'aborde pas le problème de l'homosexualité de Delanoé. Bon, il l'a avoué, il l'a dit, et c'est très bien. Mais c'est pas tout à fait moi mon angle d'attaque. Je préfère me parler des hommes politiques, non pas pour leur vie privée, si vous voulez, mais plutôt par ce qu'ils font. Il y a un tel champ, si je puis dire, est tellement riche dans ce qu'ils disent et ce qu'ils font, qu'on peut aussi peut-être par moment oublier ce qu'ils sont.
Et dans tous les champs, vous êtes quand même très mordant, très méchant, très gaulois aussi. Vous produisez ce sourire. J'ai vu quand même quelques voisins frissonner un peu. Je suis naïf ou vous êtes vraiment très audacieux?
Non, on n'est pas très audacieux. Vous savez, je veux dire, le problème des chansonniers, puisque nous restons pratiquement le dernier théâtre qui puisse être targué de ce titre. Le problème des chansonniers, c'est pas de remettre les choses en place, c'est pas de faire de la morale, c'est pas de faire de donner des leçons, c'est pas d'avoir une satire à la fois violente, orientée et moraliste, c'est de faire rire les gens qui sont dans la salle. Si en sortant de la salle, ils oublient ce que j'ai dit, je suis ravi, l'essentiel c'est qu'ils aient passé deux heures formidables. Et c'est notre boulot, c'est un boulot de saltimbanque. Si j'avais voulu être méchant, ou si j'avais voulu être audacieux, comme vous dites, ou si j'avais voulu être agressif et moraliste, je me serais fait pamphlétaire, mais je me serais pas fait chansonnier. Or, les pamphlétaires sont des gens dont on a besoin. Il y a eu de grands pamphlétaires dans France, à commencer par des gens comme Léon Blois ou Léon Daudet. Mais c'est pas mon métier. Mon métier, c'est de faire sourire les gens. Je suis un saltimbanque. Il n'y a pas d'autre définition que celui-là. Et il est évident que le fait d'aborder des sujets qui, par moment, on peut dire, ennuient les Français, puisque la politique, ça a l'air par moment de les ennuyer, ce qui est d'ailleurs pas tout à fait anormal, si je puis dire, et de les faire rire avec ce qui est censé les ennuyer, c'est-à-dire leurs impôts, leurs problèmes de société, je crois que c'est ça notre métier. Et si les gens, à la fin de mon tour, des 25 minutes que je reste en scène, se marrent, eh ben j'ai fait mon métier, voilà.
Jean Madou, vous êtes chansonnier depuis longtemps.
Ça fait un bout de temps que j'en vends.
Je me souviens que nous rencontrions parfois quand vous cherchiez des photographies pour faire vos photos bulles.
Tout d'ailleurs, sauf que au lieu de les projeter avec un vieil appareil Kodak, maintenant je les projette avec un ordinateur. C'est la seule différence.
Voilà, ça c'est le.
Alors si toute sa valeur.
Si ça a changé, probablement l'auditorat a changé aussi. Est-ce que vous trouvez que le rire du public a changé récemment, enfin depuis quelque temps?
Non, j'ai pas la sensation qu'il ait changé. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que au théâtre des Deux Ânes, et on le voit tous les soirs, on a un public assez souvent qui est jeune. Je veux dire, il y a des gens d'une trentaine, 25, 30, 35 ans qui sont là et qui pour certains même découvrent vraisemblablement cette face cachée d'un spectacle qu'ils ne connaissaient pas, et ils rient de la même manière que leur père riait il y a 20 ans quand on parlait de Pompidou ou de Gaulle. Donc je veux dire, je sens pas du tout ça, il n'y a pas de modification au fond. Les Français, même si parfois ils boudent les urnes, sont un pays très politisé. On est très très politisé, ce qui fait que la vie politique française, qui est extraordinaire, il faut bien le dire, qui est quand même un feuilleton prodigieux, qui est vraiment la vie politique la plus rigolote du monde, qui renvoie, à mon avis, et urgence et les feux de l'amour au rang d'abusement de patronage. On a un feuilleton quotidien extraordinaire avec des mots, des dialogues éblouissants, et donc ça dure depuis très très longtemps. Et les Français sont très friands de ça, et ils viennent le voir d'autant plus qu'on est en général, on ne passe pas beaucoup, enfin, mais même pratiquement pas du tout, à de rares exceptions près. On a fait l'émission de Drucker récemment avec Maillot, mais on ne voit pas la télévision.
Et bah, donc, depuis la suppression de la boîte à sel, pratiquement. Hein.
Non, il y a eu d'autres.
Y a eu, ouais.
Moi, j'en ai assumé après la
boîte. Oui, c'est vrai, vous avez fait des émissions.
J'ai assumé, c'est pas sérieux, pendant assez longtemps, à 13h20 le dimanche en direct. Mais il n'y a plus d'émissions de chansonnier, de cette satire un petit peu, je dirais, à fleur et mouchetée. Il y a des émissions satiriques, je l'ai faite aussi avec le Bébé de Chaud, hein. Je veux dire, pendant 7 ans, j'ai été un des co-auteurs avec Roucas et Colaro du Bébé de Chaud. Donc, je connais bien ce domaine. Et il n'y a plus de satire à fleur et mouchetée qui n'est pas fait là pour blesser ou pour faire mal, mais qui est là pour égratigner, si vous voulez. Et alors, comme il n'y en a plus à la télévision, les gens viennent dans les théâtres. Ce qui fait que le Théâtre des Deux Ânes est le seul théâtre privé de Paris, quand j'entends privé, c'est-à-dire qu'il n'est pas un théâtre subventionné, c'est-à-dire un théâtre qui paye des impôts au lieu de recevoir l'argent de l'État, qui commence le 1er octobre et qui est sûr d'aller jusqu'au 15 juin. Et même cette année, ça marche très bien qu'on ira jusqu'au 15 juillet.
Ah, très bien.
Et même si Villepin saute.
Les gens viennent, et où qu'on aille en France, en province, où qu'on aille, quelle que soit la grandeur de la salle, on la remplit. Alors ça, c'est quand même réjouissant. Et je crois que ça tient au fait que les gens, ne nous voyant pas à la télé, viennent voir ce qu'on dit quand on est sur scène.
Exactement.
Merci Jean Amadou. Je ne vous dis pas les mots qu'il ne faut pas dire. Je ne vous dis pas le mot qu'on ne peut pas dire.
Pour on pense très fort.
Mais on pense... on ira peut-être vous voir même. Moi, je pousserai peut-être le soutien moral jusqu'à aller vous voir.
Vous venez,
merci
quand
beaucoup.
Vous voulez, vous savez, vous venez de me téléphoner. Donc, vous avez mon numéro de téléphone. Et vous n'avez qu'à me téléphoner. Et vous viendrez quand vous voulez. J'ai entendu le mot que vous n'avez pas dit et je ne vous répondrai pas donc et je ne vous remercierai pas parce que c'est la tradition.
Merci. À bientôt.
Au revoir. Au revoir. Alors, évidemment, on enchaîne rapidement en rappelant donc, nous parlions avec Jean Amadou du Théâtre des Deux Ânes. Il faut citer ses camarades quand même, Bernard Mabille, qui n'est pas le plus mauvais non plus, Jacques Maillot, Pierre Douglas, Jean-Pierre Marville, Michel Guidoni, Guylaine Marie et Florence Brunold. Alors, je donne l'adresse, 100 boulevard de Clichy, 75 018 Paris, c'est le métro Blanche ou place de Clichy. Mais je déconseille d'y aller tout droit parce que c'est plein comme un œuf tous les soirs. Il est donc non seulement prudent, mais indispensable de réserver dans les agences Fnac, la Fnac, Virgin. Le téléphone 01 46 06 10 26. Le site internet www.deuxanes.com. Et je rappelle que ceux qui ont aimé le ramage de Jean Amadou pourront voir son plumage sur Paris Première après-demain, vendredi 26 mai à 20h50.
Merci Monsieur Patrick Goffman. Nous changeons alors là radicalement à la fois de sujet et d'interlocuteur, puisque je me tourne vers Monsieur l'abbé Garcia, que beaucoup d'auditeurs connaissent, puisque c'est un prêtre de la fraternité, qui était très apprécié des Français, parce que les Français aiment beaucoup, contrairement à une légende persistante, les étrangers. Et l'abbé Garcia est un Castillan d'Argentine. C'est ça qu'on peut dire, monsieur l'abbé ?
Exactement, Serge. Et un Castillan de la Pampa, et la Pampa et Castille se ressemblent beaucoup.
Ah, écoutez, j'irai vérifier ça. La Castille, je connais un peu, mais la Pampa, pas encore. Mais mon ami Bonal me téléphone deux fois par semaine ou trois fois par semaine pour me dire qu'il faut absolument venir. On finira par y partir. Et je vous ai demandé de venir parce que je voulais vous parler d'un grave problème dont on nous rebat un peu les oreilles en ce moment et qui me paraît receler quelque chose de pas très très... je dirais pas très sain. Enfin, je crains fort qu'il y ait quelque chose là-dessous de pas très régulier. C'est ce qu'on appelle le commerce équitable. Il y a une boîte qui porte le nom d'un personnage un peu bizarre, qui est d'ailleurs un personnage de roman. C'est Max Avelard, c'est ça ?
Effectivement.
C'est un personnage de roman, Max Avelard. Il n'a jamais existé. C'est un héros de roman.
Et d'origine, effectivement, protestante.
C'est ça. Alors, sur ce nom, on nous vend dans les supermarchés, dans les prises uniques, dans les magasins, on nous vend des choses assez joliment habillées, d'un faux rustique exotique pas mal torché, à des prix au même prix que les autres, peut-être un peu plus cher,
un peu plus cher,
voilà, en nous expliquant que c'est du commerce équitable, c'est-à-dire que en fait c'est censé être payé plus cher aux paysans qui produisent ces produits. Par exemple, on nous vend du café qui est supposé être payé plus cher aux paysans qui l'ont récolté au Congo ou je ne sais où. Je ne sais pas qui fait ça, je suis un peu troublé. Et donc, j'ai essayé de savoir si c'était une exclusivité de Max Avelard, ce genre de truc, et j'ai découvert que non, pas du tout, il y a un concurrent très très sérieux à Max Avelard, c'est Monsieur l'abbé Garcia, figurez-vous. Alors je l'ai invité, pour lui demander qu'est-ce que c'est que cette histoire de commerce équitable que vous avez mise sur pied.
Effectivement, et la formule commerce équitable ne m'appartient pas. Je me suis plongé sur ces sujets et étant donné qu'en Colombie nous avons un projet sur le café et le commerce équitable. D'abord, l'accès est bien fermé à mon égard, étant donné que dans l'origine, je trouve plusieurs prêtres et de la théologie de la libération qui ont laissé la vigne du Seigneur pour s'introduire dans les cafétales et lesquels la formule est bonne, c'est-à-dire c'était d'éliminer certains intermédiaires au profit du producteur primaire. La chose n'est pas effectivement exacte, et on voit bien que, en profitant en définitive aussi, parce que dans ces prêtres, la théologie de la libération, il y a une façon systématique de culpabiliser les premiers mondes de son abourgeoisement. Et effectivement, c'est un marketing qui marche très bien. Et au fond, c'est une démarche assez perverse.
On imagine bien le PDG qui vient de virer sa secrétaire et qui rentre chez lui en disant « Chérie, je me suis mal conduit avec ma petite secrétaire. »
Il faut que nous achetons un petit paquet pour aider les Indiens du Guatemala, du Honduras et du Mexique. Donc, comme on n'était pas possible pour nous cette formule, nous avons créé avec des producteurs de café de la Colombie, de nos fidèles à nous-mêmes, une marque des cafés que nous avons appelé San Ignacio.
San Ignacio,
en effet.
Comme on dit, du café noir aux couleurs des jésuites.
Et avec toute la dynamique. Et en fait, c'est parce que dans le alpha et l'oméga de l'histoire, se trouvent les jésuites. Parce que ce sont eux qui sont à l'origine du café en Amérique du Sud, autant qu'ils le sont pour le maté. Étant donné qu'il s'appelait jadis thé des jésuites, pour éviter que les Indiens des réductions jésuitiques puissent se donner à l'alcool et préférer qu'ils prennent du maté. Et je crois qu'il doit y avoir un rapport assez étroit aussi dans cette démarche des jésuites, bénéfique en fait pour les indigènes. Et c'est ainsi que le café est arrivé dans la cuenca de l'Orinoco, el Meta et Tabaje, les premières graines de café. Et années plus tard, cette cultive de café s'est développée dans la province de la provincia de Santander, en Colombie. Le café qui donnait comme pénitence à un prêtre, Francisco Romero, qui demandait à ses fidèles, à la place des quelques « Je vous salue Marie » au temps des mystères du chapelet, à la suite de la confession, de planter autant de pieds de café.
C'est formidable.
Donc, c'est lié quand même, c'est un produit lié à notre foi, étroitement.
Mais pardonnez-moi, monsieur, il y a eu un moment où l'Église a sévi contre le café, me semble-t-il, tout à fait au début de l'arrivée du café en Europe. Je crois que le café et le tabac, d'ailleurs, ont été frappés plus ou moins d'interdits, non ? Parce que c'était des boissons. Enfin, le café était une boisson excitante et le tabac, une habitude nuisible.
Alors, et dans cette érudition, je manque des détails. Mais les jésuites, je crois qu'ils ont trouvé la combine pour s'en sortir.
Vous connaissez la célèbre histoire du franciscain qui est dans le train et il voit un jésuite dans le même compartiment qui lit son bréviaire et qui fume la pipe. Et alors il l'interrompt et lui dit « Pardon mon père, je vois que vous fumez la pipe et que vous dites votre bréviaire. Moi j'ai demandé à mon supérieur si je pouvais fumer la pipe en lisant mon bréviaire et il me l'a interdit. » Et le jésuite lui dit « Non, c'est pas ça qu'il faut lui demander. Il faut lui demander si vous pouvez lire votre bréviaire en fumant la pipe.
» Exactement, c'est une artiluge qui entend sur ses pattes. Et notre but, en fait, en Colombie, c'est de développer l'œuvre des retraites de Saint-Ignace. Donc, la Colombie, c'est un pays magnifique. Je veux le présenter au premier monde. Comme c'était jadis, quand on nous racontait les histoires de l'Eldorado, les cœurs des Occidentaux s'enflammaient, s'enthousiasmaient, parce qu'il y avait un trésor là-bas. Et ce trésor a exalté l'imagination, le cœur, il a motivé les volontés à traverser l'Atlantique à la recherche d'Eldorado. Je ne viens pas avec des histoires, des légendes, sinon réellement avec une belle réalité, qui est celle de la Colombie aujourd'hui. Nous prions particulièrement parce que dimanche prochain, il va se trouver avec les votations des élections présidentielles. Donc c'est toujours de façon définitive, avec une Amérique latine qui bascule à gauche violemment. Et La Colombie, donc, c'est un pays qui a des trésors extraordinaires. Je ne veux pas, mais je pense qu'il faut parler toujours des cartels, de la drogue. Et c'est triste. La guérille, c'est violence. Hein, même si, qui sait, peut-être grâce à elle qu'on vit ici avec l'optique de la mort. Et c'est un peuple qui reste vigilant et sur le pied des guerres, prompt, décidé à réagir. Je ne parle pas des curés qui ont troqué les tôles pour les cartouchières, ni l'épée de la vérité pour les fusils de la revanche. Malheureusement, les dégâts de la théologie à libération sont très pressants dans la fondation. Donc, même des prêtres espagnols, beaucoup des sels, mais un sel malheureusement mauvais qui les a poussés à la fondation et l'Ejército. Des guérilles, en définitive. Même pas les sectes, qui malheureusement, oui, bien, font beaucoup de dégâts, parce que par le pont tendu vers le communisme, on rejoint le protestantisme. On parle toujours d'un côté misérable de tous ces pays-là. Et je crois que c'est pas digne vis-à-vis de nous, que nous sommes appelés à développer non seulement les talents personnels, mais aussi les talents de la société et les talents de la Colombie. Donc, notre but, c'est voir et que nous soyons capables d'avoir les regards de la Véronique, qui voit la beauté de notre Seigneur Jésus-Christ malgré toute cette passion, cette souffrance, ces moqueries qu'elle peut avoir. Donc, je ne parle pas des enfants de la rue, ni les femmes des trottoirs, ni ceux qui déambulent dans la dérive, dans les villes, et qui cherchent de combler leur vide de leur estomac et leur cœur en y allant, je ne sais pas quel produit. Ni la misère, ni la pauvreté, car c'est probable et grâce à elle que les cœurs ne sont pas encore tièdes et embourgeoisés. Ni les révolutions et leurs troubles, ni l'économie et ses fluctuations, malheureusement. Nous souhaitons présenter la face exaltante de la Colombie d'aujourd'hui, à travers de son histoire et de son peuple, de ses hommes célèbres, patriarches enracinés dans leur terre, dans leur famille, dans leurs traditions. C'est un peuple qui n'est pas attaché à la foi catholique, non seulement d'une façon spirituelle, c'est l'estado de Antioquia, ou Antioquia, Antioquia, en disant les Colombiens, et a déclaré la guerre à l'Italie pour la usurpation des états pontificaux. Donc, c'est quand même un attachement à la foi catholique très profonde. C'est le pays des c'est le président de l'Équateur, d'Ezequiel Moreno Díaz, un évêque qui a demandé de mettre sur la pierre tombale, le libéralisme est un péché. C'est un pays foncièrement catholique. C'est un peuple foncièrement consacré au Sacré-Cœur. Tous les années, le président d'État y faisait le vœu national et consacrait la Colombie au Sacré-Cœur dans une église. Aujourd'hui même, nous pouvons voir le président, le mercredi des cendres, fier de sa croix cendrée sur son front. Et ils n'ont pas honte de Dieu. Et c'est un pays des contrastes, c'est un pays en guerre, et nous sommes là pour s'aimer la bonne parole. D'un pays, la signification géopolitique et sa situation stratégique, charnière entre deux continents, bagnée par deux océans, et l'épreuve aussi de sa mission providentielle au sein du corps mystique. Les aspects mystiques de la nouvelle Grenada sont sublimes, se manifestent par la dévotion au Sacré-Cœur que je viens de faire allusion. La prière prière dans tous les endroits, vous voyez les gens réciter l'Angelus, les fleurs des orchidées dépositées au pied du Christ de Bouga, la Vierge des Guicanes, ça c'est un miracle vraiment très particulier, très beau, parce que c'est une image de la Sainte Vierge qui était arrivée avant les caravelles des colons. Et les Indiens, et quand le missionnaire est arrivé avec une Sainte Vierge, il dit « Nous avons une autre ». Et eux savaient déjà « Je vous salue Marie ». Donc, par quel miracle était cette Notre-Dame précédée la Santa Maria de Christophe Colomb dans les terres des... Bon, il y a quand même un attachement de Dieu à cette terre. Une autre...
Qui porte le nom du Saint-Esprit, d'ailleurs.
Et voilà, exactement. Et la Sainte Vierge Notre-Dame de las Lajas, qui c'est la même Vierge de Guadalupe, qui sont des images miraculeuses, mm-hmm. mais imprégnées dans un rocher. Et donc,
on n'en parle jamais de ça.
Et ça n'existe pas. Et vous pouvez dire, et vous pouvez voir les traits de Notre-Dame de las Lajas sont exactement le même de Notre-Dame de Guadalupe. Vous avez le même ovale de son visage, les mêmes arcades sourcilières, le même lèvre, le même regard, même si le regard de Notre-Dame de Guadalupe se penche vers son sein parce qu'il est enceinte. Et la Vierge de las Lajas, il vous regarde parce que son fils divin est dans ses bras. Et c'est vraiment saisissant parce qu'on voit que Notre-Dame de Guadalupe qui est apparue à Colombie aussi. Et curieusement, ce sont les Équatoriens qui ont pour elle un attachement aussi très, très filial, très, très forte. Voilà, donc notre optique vis-à-vis de cette Colombie que nous aimons autant et que nous devons aimer sans faire les misérabilistes, c'est précisément développer ces talents. Une des choses magnifiques de la jeunesse colombienne, c'est une jeunesse qui n'a pas peur de Dieu, qui n'a pas peur de la vocation, de l'appel de Dieu. Et c'est une mine des vocations des prêtres. Et dans les sacerdoces, effectivement, se trouve toute notre espérance. Et nous voulons dénicher ces vocations et les donner un espace et un temps, un lieu pour méditer, pour approfondir. Non, bien sûr, exclusivement pour les vocations. Mais je pense que c'est un des talents les principaux de la Colombie, ce sont ces vocations. But pour lequel nous voulons bâtir une maison des retraites, d'exercice des Saint-Ignace. Et nous avons commencé pour le plus bas. Et nous n'avons pas ouvert le bec en attendant qu'il nous arrive tout cuit, mais nous avons créé une marque de café San Ignacio, que nous allons apporter ici à Paris, dans lequel un groupe de mes anciens amis, de mes anciens élèves, ont fait une association qui s'appelle Mission San Ignacio, qui se trouve à 82 avenue Saint-Ouen, près des Montmartre, d'ailleurs où Saint Ignace a commencé sa première compagnie de Jésus en 1534, je crois. Donc on est quand même lié à San Ignacio d'une façon très particulière. Et nous vous allons proposer donc ces cafés. Nous ne demandons pas une aumône supplémentaire parce que les familles catholiques sont très éprouvées. Ce ne sont pas les plus aisées ni les plus capitalistes. Mais simplement ne pas acheter autre marque. Par exemple, vous avez une marque de café que je voyais dans les supermarchés qui patrocine les codes Da Vinci, au Da Vinci Code, comme on dit en France. Oui. Et donc, voyez, il y a quand même une mystique derrière, mais c'est pas la nôtre. Oui. Alors, c'est quand même curieux, c'est dommage que nous ayons nos convictions. Je ne demande pas une aumône supplémentaire. Je demande simplement d'acheter un café qui d'ailleurs est le meilleur.
Oui, j'allais vous demander, est-ce qu'il est bon au moins?
Il est délicieux. Bon,
alors en plus,
je peux vous dire qu'il est délicieux.
Pour une fois qu'on pourra se régaler sans commettre de péché, il ne faut pas se gêner.
C'est sûr et certain que c'était, d'ailleurs, réveillons-vous un petit peu, réveillons-nous un petit peu de dynamisme, ne pas nous laisser décourager. Mais c'est un café délicieux. Je l'ai goûté d'ailleurs avec plusieurs patrons de café qui ont trouvé une douceur. Il est exempt des amartumes. D'habitude, les gens qui prennent un café, à la suite, ils prennent un verre d'eau, si vous voulez, parce qu'il y a quand même une amertume au fond, à la fin. Eh bien, le café San Ignacio, c'est une douceur extrême. Je ne sais pas si très jésuite, mais...
Douceur évangélique.
Une douceur évangélique, absolument.
En tout cas, il vaut mieux, comme le fait remarquer Dominique Erunin, qui est discret maintenant, il n'ose plus parler.
Ça,
il a été terrorisé. Vous l'avez tancé d'abondance. J'ai eu un instant d'inquiétude. Je me suis dit, il va s'en manger 5 kilos de viande fraîche. Non. Bon, comme il me le fait remarquer, il faut quand même mieux boire du Colombia que du Arabica.
Absolument. Il fallait distinguer parce qu'il y a les Robusta et vous avez une distance avec une meilleure qualité avec Arabica. Mais de l'Arabica au Colombien, il y a la même ou plus grande distance qu'entre un Robusta et un Arabica. L'unique différence, l'unique avantage de l'arabica, c'est qu'il mousse. Et la mousse, il n'y a pas un effet dans le goût, mais un effet visuel. Les gens associent la mousse à un bon café. Eh bien, ils sont tort, parce que la variété colombienne, sans avoir de mousse, est le meilleur. Et c'est d'ailleurs celui qu'on emploie ici en Colombie pour rendre buvable celui qui vient d'Éthiopie, celui qui vient de Vietnam. Et je suis désolé, celui qui vient aussi du Brésil, qui est un robuste acide et d'une force terrible, très forte, très dure.
Alors, comment peut-on se procurer ce merveilleux café? Je vous pose la question parce que je vais transmettre le message à mon ami Dominique Bénard, alias Lapin Bleu, qui a un restaurant merveilleux à Paris, qui est tout près de Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Je vous signale, un fidèle vous propose de vous emmener dîner ou déjeuner, il faut aller au Ronchon.
Ça sera avec plaisir, voilà. C'est la bonne cuisine française.
Il faut retenir les Ronchons.
Quai de la Tournelle, je crois.
Je le cite parce que d'abord on boit du café chez lui, on ne boit pas que du café, je le précise quand même, il a une cave qui est intéressante, mais c'est le dernier café de la famille, le dernier restaurant de la famille ouvert en ce moment, parce que l'Alzaco, je le signale aux amateurs, a pris des vacances pour 3 mois.
Et allez donc.
Bah, il dit qu'il préfère prendre des vacances que payer des impôts. C'est son affaire, il a bien raison d'ailleurs. Et la mère agitée s'est absentée aussi pour quelques semaines en Corse. Et bon, je ne sais pas si les Corses vont la garder, on ne sait pas, enfin, on verra. Mais pour l'instant, donc, si vous voulez dîner entre amis, chez les amis, vous pouvez aller chez les Ronchons, 25 quai de la Tournelle. Je rappelle le téléphone 01 46 34 50 99. Et c'est ouvert tous les jours. Sauf le mardi, mais je suis pas certain. 01 46 34 50 99, vous pouvez téléphoner. Lesronchons.com, lesronchons en un seul mot.com. C'est un très bon restaurant, très très agréable, le décor est beau, la cuisine est délicieuse. Je dis ça à monsieur l'abbé parce que je suis certain qu'il trouvera quelqu'un pour l'emmener. Il y a pas mal de fidèles de Saint-Nicolas qui s'y arrêtent, notamment le dimanche après la messe. Et j'en parle parce que c'est une bonne maison, ce sont des gens charmants. Et dans quelques temps, je suis certain qu'on pourra consommer chez
déguster
eux.
Déguster Saint-Ignatio.
Le café Saint-Ignatio. Ça, j'en suis sûr.
Un café pour servir.
J'ai quelques messages pour l'abbé Garcia. Bonjour à l'abbé Garcia de la part d'un fidèle auditeur colombien à Paris. Existe-t-il dans ces cafés du café biologique? Et bien entendu, une question très pertinente, où peut-on trouver ce café?
Voilà. Alors effectivement, notre café, sans avoir tous les labels qui sont requis, notre café est biologique. Hein. Ce sont des petits producteurs qui n'ont pas assez essayé, même par les circonstances, d'émettre des produits chimiques. Et donc c'est un café vraiment d'une qualité extrême et dans tous ces domaines-là. Donc, mais nous ne faisons pas de ça une, parce que malheureusement ça devient une manie presque. Mais dans ce domaine-là est excellente et nous pouvons le demander à l'association Mission San Ignacio, 82 Avenue Saint-Ouen, 75 018 Paris. Et sinon, vous avez un email ici qui s'appelle missionsanignacio@
comme vous voulez.
Et donc missionsanignacio@colombia.com. Donc Vincent Tessier se fera. Donc l'objet c'est aussi les apporter chaque mois. C'est la consommation mensuelle et domestique, n'est-ce pas? Donc pouvoir avoir un fichier et tous les mois apporter à ses familles 1 kilo, le minimum que consomme un ménage par mois, c'est 1 kilo, en ayant le petit déjeuner et un café à midi, et c'est 1 kilo par ménage, même si la famille est petite. Si elle est plus grande, eh bien, ça peut être davantage. Mais c'est vraiment un café que plusieurs amis m'ont demandé de mettre un prix plus élevé, étant donné que les gens ici en France, quelque chose qui a la qualité, ça doit être cher. Elle dit, mon père, vous ne pouvez pas mettre un aussi bon café aussi bon marché. Mais je ne sais pas, je n'ai pas la tête à ça. Je ne m'appelle pas Max Avelard.
Laissez ceux qui savent le faire. Vous en occupez plus. Après, vous dites.
Absolument.
Ça, c'est un peu jésuite.
C'est un jésuite. Donc nous avons cette, des paquets encore à 600 grammes et à 8 euros le kilo, qu'on pourrait vendre clairement, parce qu'étant donné qu'un café gourmet à 14 euros les 500 grammes, ça vaut pas la peine. Je veux aussi que nous soyons sans 50 fiers d'un produit qui va nous aider, nous va nous soutenir, et les gens qui consomment du café, ça ne sera pas des clients, ce sont des alliés dans notre mission. Donc voilà, et c'est pour ça que je ne parle pas ni d'Ingrid Betancourt, que je crois que vous avez assez, et ces 3500 sécrestés. C'est que le prise en otage aujourd'hui, vraiment, c'est l'âme de la Colombie. Voilà ce que nous devons libérer. Et en libérant la vérité, en prédiquant la vérité, cette vérité qui nous rend libres, voilà l'âme que nous devons sauver. Et si la rédemption a un prix, c'est justement cela que je viens vous demander. Les prix de cette rédemption pour milieu de café.
Merci, monsieur l'abbé. Merci beaucoup de votre humour, de votre joie qui éclate aux yeux et aux oreilles. C'est très, très agréable. Merci. Et puis, vous pouvez compter sur nous pour soutenir le seul café que boivent les gens bien, le café San Ignacio.
Merci, Serge de Becquet. Je suis très touché de votre collaboration et je vous remercie de la part de tous nos fidèles amis fidèles de la Colombie.
Merci. À bientôt. Nous changeons, alors là, encore une fois, de sujet, de continent, d'époque, pour parler d'un sujet qui me tient à cœur pour des raisons personnelles et puis pour des raisons chronologiques, je dirais, en ce moment, puisque 2006, il y a 60 ans, éclatait la guerre d'Indochine. Et j'ai réuni autour de cette table trois personnes qui me paraissent fort bien placées pour en parler. Monsieur de Ocampo, qui s'appelle Pierre-Marie de Ocampo, et qui vient de publier aux éditions de Paris un livre excellent, excellent livre de souvenirs. C'est un peu difficile, enfin, c'est rare qu'on puisse dire d'un livre de souvenirs militaire qu'il est excellent. En général, on dit il est intéressant, il est bon. Et en réalité, très souvent, c'est une vieille blague anglaise, c'est un peu rasoir, quoi, hein, parce que c'est des vieux généraux qui racontent leur campagne avec des tas de cartes qui n'intéressent absolument personne, d'ailleurs auxquelles on comprend rien. Là, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, le titre lui-même me paraît porter le sens de ce livre, c'est Chambrée 28, Mémoire de Légion Indo 45-50. Le deuxième, c'est Roger Hollandre, qui a parfaitement le droit de parler de l'Indochine, d'abord parce qu'il a fait la guerre d'Indochine. Je crois qu'il connaît parfaitement ce pays et ses habitants, qu'il a gardé au cœur une véritable tendresse pour l'Indochine et pour les Indochinois. Tu as consacré plusieurs livres à cette épopée, à cette aventure. Le troisième, c'est Dominique Hérulin, qui a connu l'Indochine de deux manières, je crois. La première, c'est parce que, comme moi, c'est le tombeau de ton père. Ça a été le tombeau de ton père. Et la deuxième raison, c'est que tu y es allé dans des conditions que tu racontes dans ton livre La Grande Piste. Alors, je vais donner la parole d'abord à Monsieur de Ocampo pour lui demander, et je vais donner ensuite à mes deux autres invités, poser la même question. Monsieur de Ocampo, quand on dit ce mot Indochine pour vous, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit?
Pourquoi, après un demi-siècle de cette guerre d'Indochine, les gens continuent à s'intéresser, même à s'enthousiasmer de cette guerre qui, vu le temps qui passait, pourrait commencer à se diminuer l'intérêt que l'Indochine a représenté pour non seulement les Français, mais pour le monde entier. Ce livre a été aussi publié en Argentine et l'édition a été épuisée immédiatement parce que les Argentins, la Légion étrangère ou l'Indochine pouvaient ne les intéresser qu'à un certain degré, mais pourtant ils y sont passionnés. Pourquoi? Je crois qu'il y a trois raisons qui font que ce problème terrible de l'Indochine a préoccupé les Français en premier lieu. Premièrement, parce que ce fut une guerre immédiatement qui a suivi la terriblement seconde guerre mondiale. À peine la Seconde Guerre mondiale a terminé, l'Indochine a commencé. On disait qu'il n'y avait pas de guerre si ce n'était pas à cause des Allemands. Les Allemands avaient totalement disparu de la politique mondiale, donc ils n'avaient plus rien à voir dans cette histoire-là. Et malheureusement, une guerre s'est déclenchée. Deuxièmement, c'est la première fois qu'un pays se libérait par les armes du colonisateur qu'il avait colonisé depuis très longtemps. C'est la première fois que, par les armes, ils ont cherché à gagner leur liberté. Ce qui était très grave parce que, évidemment, le succès qu'ils ont fini par avoir a compromis le sort des colonies suivantes. Les colonies qui, après, eux aussi, ont lutté pour leur liberté. Troisièmement, c'est aussi la première fois qu'un pays qui se disait allié du communisme, puisqu'il y avait même des ministres communistes en France à l'époque, s'est lancé dans une guerre qui semblait un peu, là, une des raisons, la lutte contre le communisme. Communisme qui s'était établi en Extrême-Orient et qui prenait chaque fois plus d'importance. Beaucoup de soldats, surtout les légionnaires, qui ont combattu en Indochine, avaient la bonne conscience de dire « Bon, nous continuons la lutte contre le communisme ». Beaucoup l'avaient fait en Europe, et les autres ont dit « il faut continuer ». Voilà donc une des raisons pour lesquelles cette campagne d'Indochine continue à préoccuper...
Monsieur de Campo, ça c'est... Vous me donnez une réponse, technique, une réponse à la fois d'historien et d'analyse de la situation. Ce que j'attendais de vous, d'abord, c'était de me dire... quelle image vous vient à l'esprit quand je vous dis Indochine? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, une jeune fille traversant un pont avec des buffles, ou vous voyez un bar de Cholong, ou vous voyez un camp militaire, ou vous voyez votre premier parachutage, je ne sais pas.
Je répondrai par une impression que j'ai depuis que j'ai quitté Indochine, que c'est un pays qui vous colle à la peau. On ne s'en sépare plus jamais. On continue à penser, à vivre la guerre d'Indochine comme si elle était hier ou aujourd'hui. Le peuple indochinois, alors on l'appelle vietnamien, a un charme extraordinaire. Ce sont des adversaires qui ont lutté avec un courage qu'on ne peut pas leur nier. Mais le charme qu'ils ont vous colle à la peau, on ne les oublie plus jamais. On continue toute sa vie avec la nostalgie de l'Indochine. Ses paysages, le charme de ses habitants, même la dureté de ce peuple qui a lutté avec un courage incroyable, avec des armes très, au début au moins, lointaines de ce que les Français pouvaient présenter, mais la volonté de ce peuple a vraiment été extraordinaire.
Ah, je vais poser la même question à Roger. Roger, toi, quand on dit Indochine, qu'est-ce qui te vient à l'esprit tout de suite?
Je vais répondre à ce qui me vient à l'esprit, mais je tiens à dire que c'est la première fois que je suis à une table devant un micro où j'ai en face de moi quelqu'un qui a fait l'Indochine et qui ose dire ce que je dis depuis toujours, c'est que le corps expéditionnaire français en Indochine était en grande partie composé de gens qui savaient qu'ils se battaient contre le communisme. Ça, c'est quand même évident, et moi je ne veux pas crever avant que ce soit admis par l'ensemble de la population. Mais ce que me fait penser l'Indochine, c'est exactement comme lui aussi, c'est le courage de ce peuple, hein, et avec qui nous avions beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atomes crochus. Hein. Moi j'ai toujours dit qu'il y avait deux pays qu'on n'aurait jamais dû perdre sur la planète, c'était le Liban d'un côté et l'Indochine de l'autre. L'Indochine, bien qu'elle soit différente, les Vietnamiens du Sud ne sont pas comme les Vietnamiens du Centre, ne sont pas comme les Tonkinois. Hein. C'est un peu comme la France, les gens du Nord et les gens du Sud. Hein. Il est bien sûr et certain que c'est un peuple travailleur qui a beaucoup, beaucoup d'atomes crochus avec nous, et c'est pour ça que nous y avons laissé beaucoup de copains, mais nous avons laissé aussi notre cœur.
Dominique Arulin.
Si vous me permettez d'ajouter que je suis totalement d'accord, parce que je vois que vous avez vécu cette émotion immense de de cette guerre d'Indochine, comme si vous y aviez participé personnellement.
Oui, mais j'étais là-bas 10 ans.
C'était la lutte pour beaucoup contre le communisme.
Oui, oui, oui.
Alors que ce peuple luttait quand même pour sa liberté.
Oui.
Et c'est un peuple qui a été trompé. S'il n'avait pas été trompé au moment de l'amiral de Coup, c'est pas de la peau de l'amiral de Coup, mais des sbires qui sont venus après.
Mais je viens de sortir un livre que je vais me faire un plaisir de vous envoyer et qui s'appelle L'imposture Viet Minh, parce que les nationalistes vietnamiens ont été trompés par les communistes vietnamiens. Et mon livre explique tout cela. Je crois qu'on est fait pour se revoir.
Oui.
Dominique Erulin, avant de demander une réponse, je voudrais dire que j'ai écouté l'émission excellente de Gérard Marin tout à l'heure et Gérard a parfaitement résumé ton livre. J'étais même en admiration devant la vérité de ce qu'il disait et la rapidité avec laquelle il a analysé le contenu du bouquin. Je trouve que il a exprimé vraiment un des aspects de ta personnalité qui est, il a dit baroudeur, c'est ça. Moi j'avais dit soldat de fortune, c'est moins élégant, mais un vrai baroudeur. Mais je ne pensais pas trouver un autre baroudeur à cette table. Je savais que Roger, lui, pas exactement un baroudeur d'ailleurs, parce que c'est plus classique la suite, encore que dans le domaine de l'aventure il n'a pas beaucoup de leçons à recevoir. Mais je voudrais dire que monsieur Pierre-Marie de Ocampo est pas mal non plus, puisque il est entré dans la Légion étrangère à 21 ans, il est parti se battre en Indochine, et ensuite, c'est pour ça qu'il avait une complicité très immédiate avec monsieur l'abbé Garcia, c'est que je crois qu'il a passé une partie de sa vie, même une grande partie de sa vie en Argentine, où il a fondé le CREA. Il est l'importateur des premières races bovines continentales en Argentine. Et c'est tout à fait extraordinaire. Je ne sais pas si les auditeurs perçoivent ce qu'il y a de force, de caractère et de force vitale dans un homme qui, à 20 ans, est dans la Légion étrangère, se bat jusqu'à 25 ans en Indochine, et ensuite va créer une véritable industrie de l'élevage bovin, un formidable élevage bovin, la meilleure viande du monde, en Argentine, et devient, et finit sa carrière, si j'ose dire, comme ambassadeur de l'ordre souverain et militaire de Malte en Argentine. Je veux dire que la carrière est splendide. Alors, je m'attends un jour à ce que tu sois toi aussi ambassadeur de l'ordre royal, souverain et militaire de Malte. C'est pas encore le cas.
No chance.
Bon. Tu t'es contenté d'être la cible principale de la police française pendant 10 ans, à titre complètement gratuit. Alors, revenons à l'Indochine. Quelle image,
Dominique Erulin. Écoute, je suis un peu embarrassé, parce que moi, j'avais 12 ans au moment de mes premiers contacts, alors je ne veux pas en parler comme ça, mais j'y suis revenu, comme vous le disiez plus tard, et à l'époque américaine, et ensuite, dernièrement, en fait, c'était en 96, on peut dire dernièrement, surtout au Laos. Ouais. Donc, je suis venu en pèlerinage sur les lieux des exploits, de tous nos anciens, et je me trouvais en hélicoptère russe, puisque j'étais dans une mission officielle, à survoler les arbres avec des pitons pas possibles, les creux, et de revenir sur les lieux magiques, Luang Prabang et tous ces coins, et puis alors surtout ce fleuve qui est l'élément vital, donc qui se trouvait à ce moment-là en période basse, donc tout le monde fait des cultures en ce moment, et après les mécombres remontent, en fait, de toute façon, les moines, leur manière de vivre est passionnante. Simplement, ce qui m'a étonné, c'est de ne plus trouver quelqu'un parlant français.
Oui.
Et un raccourcissement de tête. Alors je ne sais pas si c'est la vérité au Vietnam même, le Vietnam, quand on parle de l'Indochine, c'est quand même beaucoup plus que simplement le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud, hein, l'Indochine française, sûrement.
J'ai un ami qui s'est engagé en son âge, il est parti en Indochine, il n'avait pas 18 ans, il s'est engagé dans les paras, et il a donc maintenant, c'est pas difficile à calculer, il a 60... je vous laisse faire le calcul, moi je suis nul d'une fois pour toutes, donc laissons tomber. Il a 70 ans à peu près, enfin autour de 70 ans. Eh bien, quand il parle de l'Indochine, aujourd'hui, lui en parle tranquillement, hein, comme ça, et puis tout d'un coup, les larmes perlent. Quand il, et c'est pas un flandichard, hein, je m'empresse de le dire. Roger le connaît, puisque c'est Jean Tabary, le clédor, l'ancien serrurier du Front National, qui a été une grande vedette du mouvement. Eh bien, ce garçon ne peut pas parler de l'Indochine, penser à l'Indochine, ou aller dîner dans un restaurant indochinois, sans être submergé par l'émotion.
Oui, l'Indochine, c'était quelque chose de formidable, parce que l'Indochine française, c'était d'abord trois pays. Hein, le Vietnam actuel, avec trois régions, hein, la Cochinchine, le Tonkin et la Nam, les trois qui, plus le royaume du Cambodge et le royaume du Laos. Et les gens qui se sont battus en Indochine, tu demandais ce qu'on ressentait, notre ami l'a dit, je l'ai déjà dit, mais moi, par exemple, je me suis battu comme un chien pour que l'Algérie reste française. J'ai aimé l'Algérie, mais l'Algérie, ça n'était pas la France métropolitaine, mais ça n'était plus autre chose. Tandis que l'Indochine, ça n'était pas la France métropolitaine, mais c'était autre chose. Des peuples, des tribus, des régions, des façons de vivre, et surtout des gens capables d'assimiler notre culture, comme on pouvait en trouver rarement sur la planète.
Oui, c'est surtout. Hein.
Bon, je ne veux pas dire, bien sûr, je ne veux pas parler de la mort de mon père, bien sûr, qui commandait le groupe Mobile 4 en 51, quand ça foulit, quand il a été tué, qu'on appelait maintenant un des maréchaux de l'âtre, bien sûr, à cette époque. Mais ce que je me rappelle surtout, c'est avec Roger, d'ailleurs, nous étions quelques-uns d'anciens paras à nous trouver à la projection de la, comment, section
317e section.
317e section, je me rappelle, on était tous vachement émus quand on s'est levé là dans le cinéma. C'est un film sobre comme on n'a jamais su faire, un des meilleurs qu'on ait pu voir. Hein,
Alors on va... Oui, monsieur de Ocampo.
Pourquoi la parution d'un livre sur l'Indochine, alors que la littérature, depuis beaucoup d'années, s'est étendue sur ce thème? On peut penser que le thème est épuisé, que tout le monde a déjà entendu parler de l'Indochine. Il y avait donc un nouveau livre, ne se justifiait pas. Mais quels sont les livres qui ont été publiés jusqu'à maintenant? Je crois trois sortes de livres. Les premiers sont les généraux, évidemment, qui ont cherché une sorte de explication à la défaite de l'Indochine, comme Navarre, ou Élie, ou Salan. Bon, c'est un niveau très élevé d'état-major qui cherche un petit peu à excuser le mauvais fonctionnement de l'armée française et du gouvernement responsable en Indochine. Les deuxièmes ont été des livres romancés. Donc beaucoup de succès, parce que ils sont un peu remplis d'érotisme. Alors les lecteurs aiment assez bien trouver quelques petites notes comme ça qui les excitent, et on a fait passer l'Indochine en même temps. Je trouvais ça honteux, parce que la guerre d'Indochine n'était pas une guerre pour publier des récits érotiques dans l'espoir de faire croire que la guerre d'Indochine était une espèce de fête pour les soldats qui y participaient. C'était absolument pas vrai. Et les troisièmes ouvrages ont été aussi édités par des politiciens ou des témoins qui sont intéressés. Mais il n'y a pas eu beaucoup de livres à la base même de celui qui a été le pied dans la rivière.
Je vous demande de patienter deux minutes, on fait une pause technique et je vous redonne la parole. Monsieur Goffman, vous voulez absolument parler du journal que vous avez dans la main là.
Oui, le Libre Journal de la France courtoise, imprimé, numéro 378.
Je voudrais dire aux auditeurs que je ne suis pour rien dans cette publicité indécente.
Bien sûr. Vous avez tort parce que on a besoin de publicité en ce moment puisque la charmante Charlotte Bouteloup là de France Inter est en congé maternité et elle ne nous fait plus notre petite pub du mercredi pour l'émission et pour le journal. Sa remplaçante nous ignore totalement. Donc je dois bien faire cette petite promotion. La une est vraiment très réussie. Il y a bon bananière et puis on voit Chirac très très bronzé qui se régale apparemment de l'affaire Clistrim.
Oui, c'est pas du café.
Non, c'est pas du papier Ignatio, ouais. Non. C'est du.
San Ignatio.
San Ignatio, c'est du bananière. République bananière. L'événement marquant pour le Libre Journal imprimé, c'est le retour de François Brugnot, qui va nous commenter, qui considère que la campagne présidentielle est déjà commencée et qui va nous la commenter. Je vais pas pouvoir lire les messages en même temps, Serge.
Dommage, parce que celui-là est particulièrement intéressant.
Votre texte Mourir à 20 ans dans le Libre Journal. Alors, ça s'adresse à Serge de Bekech qui a écrit Mourir à 20 ans dans la page littéraire. Et donc, il est probablement un des plus beaux textes de Serge de Bekech que j'ai lu depuis longtemps. Le texte va très loin d'une profondeur digne des plus grands pamphlétaires. Courage, que Dieu vous garde. Ben, merci à cet auditeur. J'aurais peut-être oublié, moi, parler de cette page littéraire Mourir
c'est
à 20
pour
ans.
Ça que j'ai transmis ce message.
Qui salue. Eh ben, autant on va pas se cacher derrière notre doigt ou derrière des allumettes, qui salue un ouvrage qui vient de paraître aux éditions de l'Encre et qui s'appelle, j'en suis désolé pour ceux à qui ça plaira pas, Pour l'Europe, les volontaires français de la Waffen-SS.
Bah oui, c'est un bouquin d'histoire qui raconte l'épopée des volontaires français de la Waffen-SS. On a encore le droit de l'écrire, je vois pas pourquoi on le ferait pas, et c'est un bouquin absolument remarquable. Qui est paru donc aux éditions de l'Encre et dont je recommande la lecture.
De notre ami Soulas.
Je recommande pas d'aller adhérer à la FNSS. D'ailleurs, il n'y a plus de bureau d'engagement. Je recommande simplement de s'informer sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale sous tous ses aspects.
Les locaux de l'Aéroflotte lui ont été rendus il y a déjà longtemps. Alors, je cite encore deux ou trois articles marquants parce que je ne veux pas empiéter sur le débat passionnant et très qualifié sur l'Indochine trop longtemps. D'abord, je l'ai dit en ouverture, Serge de Bekech est allé au cinéma une fois cette année et c'était pour voir Da Vinci Code. Je vais prendre 30 secondes quand même pour révéler un peu notre cuisine. Je suis un peu responsable parce que journaliste d'élite, je pensais qu'il y aurait un débat, une polémique extraordinairement violente et très, très prolongée sur le film Da Vinci Code où on serait à un contre-sens comme d'habitude. Donc j'ai tanné Serge, sachant qu'il ne va jamais au cinéma, mais jamais de chez jamais. Je l'ai tanné tous les jours, tous les matins et tous les midis pendant une semaine en lui disant que c'était son devoir d'aller le faire. Et là, premier résultat, il s'est endormi au bout d'un quart d'heure. Et deuxième résultat, projection de presse de Da Vinci Code à Cannes, 2000 journalistes du monde entier éclatent de rire, s'en vont en claquant la porte et démolissent le film dès le lendemain. J'ai sous les yeux nos chers amis très proches de Charlie Hebdo qui traînent le film dans la boue également, qui révèlent que le réalisateur Ron Howard, c'est celui qui jouait Richie Cunningham, le demeuré dans la série Happy Few. Et puis il y a une caricature qui est très drôle, on est obligé de le reconnaître pour une fois qu'ils s'en prennent pas au Christ, de la projection de presse. On voit Audrey Tautou l'air complètement idiote sur l'écran, qui fait « Cela voudrait dire que... » Et l'autre, Tom Hanks, je crois, lui répond « Oui, Sophie, vous êtes la descendante en ligne directe de Jésus-Christ et toute la salle. » Les demi-journalistes éclatent de rire devant ces niaiseries.
C'est une scène très forte du film, parce que Audrey Tautou, dans le film, elle a, comme d'ailleurs dans tous ses films, faut bien le dire, elle a, enfin, tout ce que j'ai vu en tout cas, elle a deux mimiques. La première mimique, c'est la poule qui a trouvé un couteau. La deuxième mimique, la première exprime la surprise ou l'étonnement ou la satisfaction, on ne sait pas. Enfin, la poule qui a trouvé un couteau. Deuxième mimique, qui exprime généralement la douleur ou la gêne ou l'inconfort, c'est la poule qui a pondu un œuf carré. Et à ce moment-là, elle fait un exploit technique formidable qui, à mon avis, devrait lui dire, lui valoir un Oscar de la meilleure actrice. Elle arrive à passer d'une expression à l'autre et ça devient une expression formidable qui est la poule qui a trouvé un couteau au moment où elle pondait un œuf carré. Voilà, je
suis... Ben voilà pourquoi on l'apprécie aux États-Unis où la plupart des acteurs ont deux mimiques en tout et pour tout. Si elle en a trois...
C'est parce qu'ils sont traités au Botox. Non.
Merci, je comprends bien, Serge. Vous êtes réveillé au bout d'un moment. C'est, je crois que j'avais été secoué par votre vaticanologue du Libre Journal.
Non, j'étais avec le vaticanologue du Libre Journal, mais qui est un homme charitable et qui m'a laissé dormir. Et ce qui m'a réveillé, c'est une scène. Alors, j'ai ouvert les yeux et je me suis demandé si j'étais dans une maison de fous parce que c'était une fusillade entre des moines et des évêques à ceinture violette.
Là, vous envoyez des milliers de gens le voir. Hein.
Alors, je vous signale. Non, si, il y a peut-être une chose à voir, c'est. Il y a un acteur, mais il est blanchâtre. Il n'est pas blanc, mais il est vraiment blanc de chez blanc, lui. Alors, les cheveux blancs, les yeux blancs, la peau blanche. Et c'est un moine, donc, évidemment, comme il est moine, il passe la moitié du film à se balader à poil. Il semblerait, dans l'idée du réalisateur.
C'est un peu obligatoire.
De Monsieur Fozzi, là, que les moines se baladent forcément à poil toute la journée, enfin, c'est connu dans le milieu. Et là, ça, c'est intéressant. C'est à peu près tout ce qui se passe dans ce film. Et simplement, il faut dire aussi que toute l'histoire du film, c'est la quête de la sépulture de Marie-Madeleine. Or, si vous ouvrez n'importe quel guide de la Provence, vous voyez que c'est Marie-Madeleine est inhumée tout simplement dans le massif à Saint-Maximin, dans le massif de la Sainte-Baume, la basilique de Saint-Maximin. Ça, c'est connu depuis le XIe siècle. Donc, je pense qu'ils auraient pu se renseigner avant de faire ce livre et ce film. Mais apparemment, Monsieur Dan Brown a préféré se foutre de la gueule du monde plutôt que d'ouvrir un guide bleu. Donc, pour tout vous dire, économiser, je sais pas combien ça coûte, si je devrais savoir, parce que j'ai payé la
8, 9, 10 euros.
Voilà.
On peut laisser le mot de la fin au journaliste du Boston Globe qui a dit c'est le livre empire et surtout on peut laisser quelques autres révélations, quelques autres commentaires aux lecteurs du Libre Journal puisque vous en avez quand même fait une double page plus deux colonnes de bref qui sont non seulement très documentées mais extrêmement drôles. Personnellement j'ai préféré très largement cet article à celui sur le mourir à 20 ans. Alors en dernier lieu on signale quand même quelques exploits antisémites de Léoto, l'idole de Pierre Perret, là, l'antiraciste là, qui vraiment nous gonfle un peu avec la dose là, qui vient de nous servir. On signale le témoignage d'un Français qui vient de passer 8 mois en prison et qui décrit cette prison comme un repère de voyous islamistes qui se livrent aux raquettes, à des violences de toutes sortes, qui vont jusqu'au viol ainsi qu'à des conversions forcées. Bon, on rappelle qu'on a maintenant des mots croisés d'excellente qualité, qu'on a la meilleure, c'est mon avis, je le partage et je l'affirme, la meilleure chronique mondaine ou chronique people, comme on voudra, de toute la presse, y compris la grosse presse, tout simplement, je le répète, parce que le marquis d'Olmeta, lui, il n'est pas à la porte avec un tel objectif, il est dedans, il est invité partout, il n'en a pas la dent moins dure, c'est la meilleure chronique mondaine de toute la presse, grande et petite. Alors, pour finir, donc je rappelle, j'invite les auditeurs à s'abonner. S'ils veulent ce numéro 378, ils envoient simplement un carnet de timbres ou 5 euros. Si c'est encore trop cher, les amis du Libre Journal animent le site francecourtoise.info où on trouve pratiquement toutes nos archives sur une centaine de numéros. Pour s'abonner, c'est 110 euros par an. Et tout ça, ça va à SDB. Les chèques sont à l'ordre de SDB, 4 Place France Liste. 75-010, Paris.
Merci mon cher Patrick Goffman. Nous quittons donc le maricot fétide parisien pour nous en retourner vers les plaines inondées du Tonkin. Et ça, c'est, je me trompe pas géographiquement.
Si,
pardon.
Il y a des digues,
oui, mais enfin, ils les laissent inonder au moment des...
Ouais, les Américains n'ont jamais voulu les faire sauter, ils ne voulaient pas mettre tout le monde à nager.
Et trois messages. Ancien d'Andocine, j'ai participé au dernier défilé des troupes françaises à Saïgon. Où puis-je écrire à Roger Olindre ? Nous avons tous contracté le mal jaune et nous n'en avons jamais guéri, nous dit un auditeur. C'est vrai qu'on appelait ça le mal jaune. On peut écrire à Roger Hollande.
Qu'il m'écrive au Front National, et je lui enverrai d'ailleurs une photo du dernier défilé des troupes françaises à Saïgon, puisque je l'ai mis dans mon bouquin, mais je l'ai en réserve, et je lui en enverrai volontiers une.
4 rue Vauguyon.
C'est la rue.
À Saint-Cloud. Quel est le code?
92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92
instruire quant au rôle de Mendès dans le repli ordonné aux militaires français jusqu'au 17e parallèle en Indochine. Ho Chi Minh et Khrouchtchev eux-mêmes eurent du mal à y croire, tellement c'était inespéré. Roger, un mot là-dessus sur
quoi
le rôle de Mendès dans cette affaire.
Ben, ça serait très très long, ça serait très très long à expliquer, parce que ça fait partie de, il y a plusieurs chapitres sur, dans un bouquin, le rôle de Mendès. Mendès n'avait qu'une idée en tête, c'était faire la paix. Bon, et on s'est fait planter dans la mesure où le gouvernement a accepté de traiter et a dit aux Russes qu'ils étaient prêts à aller à Genève pour traiter un mois avant, et les Viet savait très bien que si entre-temps il remportait une victoire, eh bien il s'arriverait en vainqueur à Genève et que nous on arriverait en vaincu. Mais jusqu'à la fin, tout ça s'est joué. La perte de Dien Bien Phu vient surtout du fait que nous n'avions pas d'aviation de bombardement et nous n'avions pas non plus d'aviation de transport. Nous avons eu des B-26 américains qui sont arrivés, mais très tard. Nous n'avions pas les équipages, il a fallu les faire venir de France. Nous n'avions pas d'avions de transport lourds, puisque les gens qui ravitaillaient Dien Bien Phu étaient les Américains du colonel Senault, les tigres volants. Et à ce moment-là, nous étions dans l'OTAN, mais dans l'OTAN, nous fournissions de la chasse et non pas de l'avion de bombardement. Mais c'était à l'OTAN de nous fournir les avions de bombardement, puisque nous étions le seul pays de l'OTAN en guerre à ce moment-là.
Est-ce qu'on peut dire oui ou non? Pas vraiment, ou peut-être
un peu, trahison.
Que Mendès était un traître.
Mais je l'ai expliqué en long, en large et en travers. Les couloirs de l'Assemblée à ce moment-là et des ministères étaient remplis de taupes aux ordres et à la solde du Viet Minh, hein, et les choses auraient pu se passer autrement. Mais la vraie perte de Dien Bien Phu, c'est d'avoir annoncé, hein, que c'était la fin si on perdait, c'était la fin. Alors, ce que j'explique toujours, si tu as un briquet en aluminium et que tu dis c'est un briquet en or avec des pierres précieuses, le jour où tu le perds, tu ne peux pas dire il valait pas un clou. Alors on a monté tout autour de Dien Bien Phu, sans même donner au corps expéditionnaire les régiments nécessaires pour la contre-attaque, puisque les régiments de contre-attaque étaient dans la cuvette. Ils étaient dans la cuvette, c'est-à-dire les régiments para, les régiments légion, et aussi certains régiments nord-africains qui étaient de très bons régiments. Et dans la cuvette, en plus, on a amené des soldats qui étaient de bons soldats de brousse, les tailles et autres, qui n'était pas fait pour être un sous des marmitages d'artillerie. Alors aujourd'hui, moi je suis un des rares soldats du rang de sous-off à m'élever contre les généraux qui déclarent que tout était perdu. Ça n'est pas vrai. Rien n'était perdu. Et l'armée n'a pas à rougir de ce qu'elle a fait. Ce sont les civils. C'est le gouvernement civil qui a trahi l'armée au combat.
Et c'était Dien Bien Phu, donc une défaite bien commode et pas seulement pour les Viet.
Bon, en plus, je vais laisser la parole après à notre ami. En plus, j'étais rentré en France. 3 ans après, je vais avec un de mes cousins qui était grand reporter au Figaro. Il m'a dit, tiens, je vais chercher Pinet à l'aéroport. Est-ce que tu viens avec moi? Je vais donc à Orly avec mon cousin chercher Pinet. Et Pinet débarque de l'avion. C'était pas le cirque que c'est aujourd'hui où tout était bouclé, haut, des flics partout. tout, hein, et il saute dans les bras de mon cousin, il se connaissait, il s'appelait Yves Desjacques, hein, qui était grand correspondant du Figaro, et Desjacques lui dit, alors, monsieur le président, qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas? Et lui, alors qu'on n'était plus rien au Vietnam, Pinet lui dit, mais l'avenir de la France est assuré au Vietnam, c'est un pays formidable, bande de cons, on avait tout perdu, on avait largué à cause d'eux, et il trouvait que c'était un pays formidable qu'on a laissé aux mains des communistes. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que tous les gens qui ont servi à nos côtés se sont battus encore et sérieusement après notre départ, et ils ont tous été dans les camps de concentration et dans les camps de rééducation, que Madame Deneuve allait à Saïgon, au Ho Chi Minh-ville, hein, chose que je ne dis jamais, à tous ces gauchistes aller là-bas saluer le pouvoir qui n'amenait une fois de plus, comme dans tous les pays communistes, que le malheur aux Vietnamiens qu'ils sont venus libérer, mais les Vietnamiens n'ont jamais demandé d'être libérés par ces gens-là.
Monsieur Théo Campo,
ajouter quelque chose.
Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît.
Ce que dit notre ami, la trahison qui a eu lieu du gouvernement, j'ai un exemple bien précis. Nous avions fait l'opération de Nam Dinh à Ninh Binh, et nous avons là appris que le convoi de Ho Chi Minh allait passer sur une route à l'ouest de Ninh Binh, et qu'on pouvait encore la coiffer. Alors le commandant Lemay était le chef du bataillon, évidemment nous sommes tous enthousiasmés à l'idée, peut-être nous allions pouvoir attraper le convoi, il y avait leur radio, tout le gouvernement qui était un gouvernement nomade de Ho Chi Minh à l'époque, allait passer sur une diguette à quelques kilomètres de là où nous étions. Comme on l'aimait, il a maintenant donné des ordres pour s'emparer de cet endroit-là. Vous savez qu'on est à Ho Chi Minh, quand on n'est plus sur la diguette, aucune voiture ne peut circuler, c'est la rivière. Il a eu l'imprudence, ou il a cessé son devoir, de prévenir à Hanoï qu'il allait se transporter sur cette route importante pour tâcher d'attraper le convoi de Ho Chi Minh. À ce moment-là, on lui a répondu, oui, mais c'est une opération très importante, alors il faut qu'elle soit menée par un colonel, que nous allons vous envoyer immédiatement. Alors, comme on l'aimait, évidemment, il avait reçu l'ordre de ne pas se porter sur la diguette à ce moment-là, d'attendre le colonel. Attendu le colonel, le lendemain, le colonel est arrivé, comment on l'aimait, était désespéré, parce que entre-temps, le convoi risait d'être pas... Nous sommes précipités avec ces espèces de colonel qui savait très bien que le convoi avait déjà passé. Il avait reçu l'ordre probablement de Paris de laisser s'échapper au Ho Chi Minh.
C'était en
42.
Bon.
Au moment
du débarquement de Leclerc, au moment du débarquement de Leclerc, les premières grosses opérations qui ont eu lieu avec des moyens infimes, parce que il n'y avait pas d'armement, il n'y avait pas de vivres, il y avait tous les équipements de tous les rebuts de toutes les armées du monde. Eh bien, le corps expéditionnaire a monté une grosse opération avec 8 bataillons, ce qui était énorme à ce moment-là. Et Ho Chi Minh a été à deux doigts d'être pris, hein, et le Ho Chi Minh n'a pas été pris dans sa grotte parce qu'il y a eu des fausses transmissions aux plus hauts échelons, c'est-à-dire les troupes Ho Chi Minh a été fait prisonnier, rapatriez-vous et tout ça était totalement bidon, et les communistes étaient totalement infiltrés pas dans le haut commandement, les généraux n'étaient pas des traîtres, les colonels n'étaient pas des traîtres, mais il y avait des taupes communistes partout, et jusqu'à la fin, ils ont trahi. Et un détail, je peux aller devant n'importe quel tribunal. J'étais au 5e bataillon de parachutistes coloniaux. Bon, nous étions dans le delta du Buissou, quelque chose de terrible. Hein, une région où ils font 3 récoltes de riz par an, inondées. Il faut patauger là-dedans pendant des semaines. Bon, eh bien, la Légion bloque un bataillon viet dans un village. Et il leur manquait quelques effectifs, on est désigné, ma compagnie, la 5e compagnie, la 10e compagnie du 5e bataillon de parachutistes coloniaux, on part à marche forcée, pour rejoindre la Légion. Et on arrive dans la nuit, là-bas. Bon, il y avait des éclaireurs qui étaient venus nous chercher et tout, avec les dangers que ça représente, parce que les combats de nuit, c'est terrible, et surtout les erreurs d'accrochage de nuit. Et on arrive, et à ce moment-là, j'étais jeune pareil, j'étais radio. J'ai tout fait par la suite pour ne plus être radio, mais à ce moment-là, j'étais radio du capitaine, qui commandait la compagnie. Et les légionnaires qui viennent à notre rencontre, c'était des dégradés, nous disent, bon, ben, occupez cette partie-là. Bon, et on occupe cette partie, ce qui leur permet de dégager quelques types pour renforcer l'encerclement du village. Les Viet étaient là, ils étaient coincés. Bon, et en plus, ils avaient décapité 10 légionnaires la veille, et les têtes des légionnaires étaient sur des bambous à l'entrée du village. Alors j'ai autant te dire que l'atmosphère était un peu chaude. Bon, on est dans l'eau. Bon, on nous dit, vous restez là. On nous dit, on reste là, nous on était des soldats, parce que quand on s'entend raconter ce qu'on raconte aujourd'hui, on reste là. Bon, on s'assoit dans l'eau, et ensuite on se couche dans l'eau. Et comme c'est des terrains très 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 plats, les diguettes pour tenir sont très étroites. Donc on met la tête sur la diguette et le corps dans l'eau, quoi, dans l'eau. On dort ou on sommeille comme ça. Et je reçois un ordre, très clair, de dégager d'où nous sommes. Je préviens le capitaine. Mon capitaine, il faut qu'on dégage d'où nous sommes, là. On tenait 150, 200 mètres, une compagnie para sur 150, 200 mètres. Trois fois, on nous donne ordre de dégager. Le capitaine dit, m'emmerde, moi je ne bouge pas de là où on va aller dans la nuit. Je répète que pour ceux qui ont fait la guerre d'Indo, la nuit c'est très dangereux de circuler, tu risques autant de te faire tuer par les copains que bon, on reste là. Bon, et à un moment, vers 3-4 heures du matin, il y a un gars qui était là, et il entend du bruit, et 2-3 viettes se lèvent à 10 mètres de nous. Tous les mecs qui étaient couchés se retournent, une compagnie de para, c'est quelques dizaines de pistolets mitrailleurs, 10 fusils mitrailleurs, sur 200 mètres de façade, les Viettes étaient devant, putain, on leur fout. Mais vraiment, ils en prennent plein la gueule. Mais on voit rien, le jour se lève, eh bien, quand le jour se lève, on avance de quelques mètres et un bataillon Viet était là, au tas, devant nous. On les avait tués parce qu'ils sont tombés sur une puissance de feu absolument phénoménale pour eux.
Donc l'ordre d'évacuer, ça signifie...
Et parmi les... Attends, mais plus que ça, parmi les mecs tués, il y avait un soubit Viet Minh, et je lui pique sa sacoche. Enfin, je récupère sa sacoche. Bon, et comme j'étais le radio, j'ouvre la sacoche et je regarde, il y avait un plan du village, Tout était noté, les emplacements, et l'emplacement où nous avions été mis de nuit, et où on nous avait demandé par radio, qui nous avait demandé par radio de partir, eh bien, était nul sur le plan. C'était marqué qu'il n'y avait rien à cet endroit-là. Donc ça prouve quand même qu'il y avait à de très hauts échelons des mecs qui faisaient... Alors on s'étonnait que chaque fois qu'on les coinçait, ils réussissaient à se barrer. Mais ils réussissaient à se barrer parce qu'il y avait des salauds qui faisaient en sorte qu'on laisse 150 mètres ou 200 mètres, ce qui suffit à des Viettes aguerris, des paysans habitués à marcher dans la rivière, à te passer sous le nez la nuit. Mais des exemples comme ça, on en a eu des centaines. Quant à moi, j'ai eu celui-là que j'ai écrit dans un bouquin, jamais personne n'est venu me dire le contraire, parce que ça avait même paru dans la presse. Alors quand on vient dire aujourd'hui qu'on raconte tout ça, et puis ces insultes envers l'armée, ces insultes envers les soldats que nous étions, nous étions de simples soldats, et on avait parmi nous beaucoup de gars de l'assistance publique, comme je leur ai dit un jour aux députés, j'ai dit, les petits gars de l'assistance publique qui signaient un contrat pour 5 ans, pour les paras, pour l'Indochine, ils en chiaient le maximum, mais ils ne reniaient pas avec leurs paroles, alors que vous, messieurs les députés, vous changez d'avis toutes les demi-heures.
Dominique Erwinin.
Ben, après ce récit, on était loin de ce que je voulais dire.
Notre ami, là, voulait dire quelque chose.
Oui, mais tout le monde va dire quelque chose. Je voulais dire, je suis en train de revenir, moi, après, il y a bien fou. Là, il y a eu une panique dans le haut commandement, faut pas exagérer, bien que ça représentait que 4% du corps expéditionnaire qui était concerné. Alors, c'était quand même nos troupes de choc, mais les Viettes s'étaient fait sérieusement étrier, hein, de toute façon.
Ils ont perdu 40 000 hommes.
Oui, donc ils n'étaient plus en possibilité du tout de continuer leur offensive. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de panique, quoi. C'était une catastrophe, si on voulait, mais on aurait pu continuer.
Mais c'était une action psychologique, ce que disait... Oui. Roger, enfin, je dis c'est vrai, les lectures montrent que c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils ont fixé une espèce de limite en disant, bon, si la Dien Bien Phu est perdue, la guerre est perdue et on s'en ira, et bien évidemment ils ont tout fait pour que Dien Bien Phu soit perdu, parce que c'est une façon en quelque sorte élégante de partir sur le dernier carré, sur une défaite héroïque, etc.
Certains généraux ont été plus qu'ambigus. Quand même.
Oui, bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Monsieur De Ocampo.
Je voudrais appuyer notre ami pour le fameux combat de Dien Bien Phu, qui était une catastrophe épouvantable, parce qu'ils n'ont pas mis les moyens nécessaires, les avions de bombardement. Si on fait la guerre, il faut donner aux soldats les moyens réellement de réussir, de triompher. Mais Dien Bien Phu, de sa manière assez pas là que la France a perdu la guerre. Elle a perdu sur l'air C4. À partir du moment où l'arc C4 a dû être abandonné dans une situation catastrophique, parce que ça a été très mal manœuvré au lieu de passer de Cao Bang à Bakan et Hanoï. Ils ont voulu aller à Lang Son, et puis une erreur, parce qu'ils sont passés par les défilés, hein, où le Viet Minh avait une force énorme. Mais c'est là que s'est perdu la guerre. C'est comme on ne peut pas dire que les Allemands n'ont pas perdu la guerre à Berlin, ils l'ont perdu à Stalingrad. Et la France a perdu la guerre d'Indochine à Solaire C4. Cao Bang, Lang Son.
Et comme je disais tout à l'heure, nous n'ayons pas d'avion de transport. Au début de Dien Bien Phu, la piste existante, c'était un avion civil anglais. Hein, qui transportait les chars en pièces détachées. Si nous avions eu des avions capables de transporter une centaine de chars, on en avait assez dans les dépôts, eh bien ça faisait autant de blocos qui n'ont pas existé dans la mesure où il n'y avait pas de béton à Dien Bien Phu et très peu d'arbres pour faire les blocos. On a fait la guerre financée par les Américains, mais avec des bouts de ficelle par rapport à ce que les Américains auraient mis dans la balance. Mais il y a quand même eu, en plus et heureusement, le courage du soldat français, qu'il soit légionnaire, para, ou bien même des troupes coloniales, qui se sont quand même bien battus. Aujourd'hui, on vient nous taxer de racisme et tout ça, ça me fait rigoler. Moi, j'ai fait 10 ans de guerre d'Indochine, j'ai fait l'Algérie, je n'ai, dans l'armée, jamais connu le racisme. J'ai eu un capitaine qui était un grand noir, qui était un type remarquable, à qui j'obéissais, pas parce qu'il était noir, mais parce qu'il était capitaine, qu'il était français et qu'il était fier d'être français. J'ai été sous les ordres d'un lieutenant vietnamien qui était un type formidable. Moi, je crois que tous ces gens qui pourrissent la France aujourd'hui avec toutes leurs histoires de racisme et autres auront des comptes à rendre un jour. Et moi, je me bats pour qu'on leur demande des comptes un jour.
Merci, Roger. Alors, on va terminer en donnant la parole aux auditeurs. Et ce sont des messages généralement d'approbation. Je suis ému d'une auditrice que vous évoquiez, la guerre d'Indochine, dont on ne parle plus guère maintenant. J'y ai perdu mon frère aîné en 47. Et elle cite le livre de Roger Delpech, « Soldat de la boue, la bataille de Cochinchine
oui. »,
qui est un des
premiers livres, très bien.
Premiers, voilà.
Mon père était à Dien Bien Phu, certaines armes françaises étaient sabotées.
Mais ça, alors, on pourrait faire une émission avec Roger, d'ailleurs, sur le rôle des communistes, aussi bien en France que là-bas, dans cette guerre.
Moi, je crois d'ailleurs qu'il va falloir ressortir toutes les affaires sur les communistes, oui. Parce qu'ils continuent à ouvrir leur gueule, alors notamment, qu'ils n'ont qu'un droit, c'est de la fermer.
La façon dont ces ordures ont empêché les gens de donner leur sang et ont participé à l'accueil des blessés.
En foutant les blessés par les fenêtres des trains.
En bas de leur civière.
Ça, quand même. Alors aujourd'hui, quand on nous bassine, parce que je fais un article sur la Waffen-SS, on va m'accuser des pires mots de la Terre. Et il y a... On on voit des ministres actuels donner des décorations à des ordures communistes, filer la Légion d'honneur à des communistes. C'est tombé malade d'horreur.
Vous savez qu'on vient d'édifier un buste de Ho Chi Minh à Montreuil-sous-Bois dans le 93. Là, vous suivez cette affaire-là?
Enfin, ils sont entre eux, là.
Bah, tout est possible.
Un auditeur demande s'il y a un livre qui relate des petites histoires, anecdotes, bons mots de cette époque de la guerre d'Indochine. Enfant, dit-il, j'entendais souvent cela de la bouche de mes parents et de leurs amis. Je n'avais pas l'idée de prendre des notes. Ce serait pourtant une bonne méthode pour garder la mémoire de façon vivante et fraîche. Je ne connais pas de livre qui fasse ça, mais tous les livres qui parlent de l'Indochine, tous les livres de la troisième catégorie qu'évoquait Monsieur de Ocampo tout à l'heure, c'est-à-dire les livres de souvenirs personnels, les livres d'évocation, d'ambiance, etc., parlent de tous ces aspects de la vie quotidienne de la guerre en Indochine, que ce soit les livres de Roger. Le livre de Monsieur de Ocampo lui-même en parle beaucoup. Un auditeur nous demande de signaler l'existence effectivement d'un excellent site internet sur le mémorial des guerres d'Indochine, qui est mémorial trait d'union Indochine.org. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a du courrier, des échanges, des choses comme ça. C'est un bon site, sauf, remarque cet auditeur, qu'il est pollué par de la publicité assez répugnante. Enfin, il semble que ce soit maintenant l'obligation. Au moment même où Mendès France a bradé nos... Au même moment, nous dit un auditeur, Mendès a bradé nos comptoirs des Indes, et les Français qui étaient présents là-bas n'ont jamais reçu la moindre indemnité. Mais ça, c'est une tradition en France. Vous savez que si un Ivoirien arrive en France tout nu, sans papier, sans rien, il est immédiatement pris en charge, il a la sécurité sociale, enfin il a les soins gratuits, il reçoit de l'argent, etc. Mais les Français qui ont été virés de Côte d'Ivoire il y a combien de temps? Il y a deux ans maintenant. Ouais, ouais. Et qui sont arrivés une main devant, une main derrière, ils n'ont rien. Rien. C'est très simple, rien. Et ils peuvent même pas se faire soigner parce qu'ils n'ont pas droit à la sécurité sociale s'ils n'ont pas trouvé d'emploi là-dessus. Le jour de la chute de Dien Bien Phu, il y a des gens qui ont bu le champagne à Paris, nous dit un auditeur, et ils ont fêté la défaite. Il y a aussi des gens qui ont, comme Jean-Pierre Stirbois ou moi, compris quelque chose. Jean-Pierre s'est engagé en politique militante. Le lendemain de la défaite, enfin de la perte de Dien Bien Phu, et moi ça m'a fait un choc moral tel que c'est le résultat d'aujourd'hui.
Excepté les communistes, le peuple français était très digne au moment de la chute de Dien Bien Phu. Les gens voyaient bien que c'était quand même une fin dramatique pour notre pays. On le paye depuis.
Il ne faut pas oublier les Cambodgiens et les Laotiens qui sont aussi attachants que les Vietnamiens, nous dit un auditeur, c'est tout à fait vrai.
Oui, d'ailleurs, il est sûr que...
Quand on parle des Indochinois,
On n'oublie pas qu'ils se sont battus à nos côtés.
Je n'ai pas connu l'Indochine, Je n'ai pas connu l'Indochine, mais pour moi, c'est une petite fille de 11 ans qui s'appelle Bay Say, ma petite filleule, enfant du Mékong, nous dit un auditeur. Effectivement, les enfants du Mékong, c'est l'association qui est dirigée par François Foucard, qui est une très bien association. On demande, ça c'est une question pour le colonel Hérulin, colonel honoraire de l'armée paraguayenne. Quel serait pour les... Alors attendez, non, ça n'a rien à voir. Ancien d'Indochine. Oui, je l'ai déjà lu, celle-là. C'est notre ami qui a participé au dernier défi.
Je lui enverrai la photo.
Il y a petit mot bien inspiré qui nous dit: est-ce que les bordels militaires de campagne du Nord-Vietnam étaient animés par des créatures locales? Je vais pas répéter l'anecdote qui a été racontée 100 fois par Sanders, mais quand même, les filles qui étaient dans le camp retranché ou à proximité du camp retranché de Dien Bien Phu, elles se sont laissées massacrer plutôt que de trahir les combattants de Dien Bien Phu. Et c'était des filles des BMC. Donc c'est très élégant de se moquer des petites kangaïs, et ça fait bien avancer le schmilblick. Voilà ce qu'on peut dire.
À la Légion, j'ai eu un chef algérien, pas moi, un auditeur. J'ai appartenu au 2e REP comme Roger Hollande. Autre auditeur, le jour de la chute de Dien Bien Phu, j'ai vu mes parents pleurer en évoquant Hélène, Béatrice, Isabelle, l'auditeur oublié Eliane.
Eliane, voilà. Merci. Naturellement, on n'a fait que survoler très rapidement le sujet, parce qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures de ce moment à la fois tragique et magnifique de l'histoire de France.
D'ailleurs, on s'excuse auprès des très nombreux auditeurs dont on n'a pas pu lire les messages et qui doivent grogner. Je leur demande de comprendre qu'on en a plusieurs centaines maintenant et que c'est pas possible.
Voilà, on va écouter peut-être un message dont l'importance n'est pas négligeable du tout. Je vous dirai pourquoi après. Et je donne la parole à...
Au Bobino.
À Bobino, oui.
Dimanche 11 juin, fête de la courtoisie. À l'espace Charenton, dimanche 11 juin, de 10h à 19h, des centaines d'écrivains qui se sont exprimés sur Radio Courtoisie vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux à offrir. Des livres dédicacés. Venez à la rencontre de ces auteurs et de toute l'équipe de Radio Courtoisie qui vous invite à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Demandez dès maintenant vos billets d'entrée. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée. Retenez, dimanche 11 juin, fête de la courtoisie, espace Charenton, 323 bis rue de Charenton, Paris 12e, métro Porte de Charenton. Entrée 15 euros. Entrée gratuite pour les enfants escortant leurs parents. Pour nous écrire, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Oui, je voudrais insister sur l'importance de cette réunion qui va se passer le 11 juin à Charenton. D'abord parce que vous savez que la réunion de centaines d'auteurs, d'écrivains, de personnalités pour la fête du livre de Radio Courtoisie est toujours un moment de se retrouver d'abord entre nous, de constater que, contrairement à ce que certains pensent ou font mine de croire, Radio Courtoisie n'est pas une petite radio sans auditeurs, sans faute beaucoup. C'est un moment important. C'est un moment spécialement important pour l'émission, mon émission, puisque ça permet de recevoir la plupart des auteurs que j'ai reçus au micro au cours de l'année. C'est le principe. Chacun des directeurs d'émission reçoit les invités qu'il veut. J'en profite pour dire une fois de plus que Radio Courtoisie n'est pas une secte, c'est pas un parti politique. C'est une radio libre dans tous les sens du terme, et chacun est parfaitement libre d'y recevoir qui il veut, de dire ce qu'il pense et ce qu'il croit au micro, et qu'il est vain d'opposer les propos tenus par l'un aux propos tenus par l'autre dans une autre émission. C'est vain parce que il n'y a pas de ligne éditoriale de Radio Courtoisie, sinon la liberté, et puis la charte de Radio Courtoisie qui n'est pas d'ennemi à droite, voilà. Donc, me dire à moi, mais vous dites le contraire de ce qu'a dit lundi l'invité de Jean Ferré, ou reprocher à je sais pas qui, à Yannick Urien, de recevoir quelqu'un dont j'ai dit moi que je ne le recevrai pas, c'est totalement inutile parce que c'est étranger à la culture même de Radio Courtoisie. La fête du livre, c'est la même chose. Chacun reçoit qui il veut, comme il veut. Il n'y a absolument aucune censure. Je n'ai jamais entendu Jean Ferré dire non, vous ne pouvez pas inviter cet auteur, pas plus dans votre émission que à la fête. Jamais, ça ne s'est jamais produit. Et donc c'est un lieu de liberté totale. Ensuite, c'est pour la radio une indiscutable source de nerfs de la guerre. Alors, évidemment, ça va pas très très loin. Mais le peu que ça peut apporter à la comptabilité de la radio, c'est autant de jours de survie. Je voudrais profiter de cette circonstance pour vous dire que, je ne sais pas si d'autres l'ont dit avant moi, parce que j'ai pas beaucoup de temps d'écouter Radio Courtoisie, je me le reproche, mais j'ai un journal à faire. Notre situation financière est une situation extrêmement délicate. La radio coûte très cher à fabriquer, bien qu'elle soit faite par des bénévoles, mais il y a des impératifs techniques, il y a des frais techniques qui sont énormes, et
disons les choses clairement, il y a une stagnation, une espèce de fatigue chez les adhérents. On a l'impression que certains auditeurs se disent, bon, oui, cette radio, après tout, c'est pas trop mal, on l'écoute de temps en temps, mais puisqu'on l'entend gratuitement, on voit pas pourquoi on irait leur envoyer de l'argent, après tout. C'est un peu comme un robinet, quand on a besoin d'eau, on ouvre. Simplement, à la fin du mois, on paye la facture d'eau. Tandis que Radio Courtoisie, quand on a besoin d'écouter des émissions intéressantes ou de la musique, on tourne un bouton, on écoute, et à la fin du mois, on reçoit pas de facture. Et ça, vous savez, c'est comme les... ça peut pas durer toujours, c'est pas comme les impôts. Il y a un moment où ça s'arrête. Et moi, je le dis, j'ai peut-être tort de le dire, mais je pense qu'on doit la vérité aux auditeurs de cette radio. La situation est grave. Elle est grave, voilà, c'est aussi simple que ça. Nous sommes tous, je le répète, totalement bénévoles. La radio ne reçoit, contrairement à ce que disent les imbéciles et les salauds, strictement aucune aide financière de qui que ce soit en dehors des auditeurs, jamais. Alors, on nous dit, mais avec tous les auteurs que vous recevez, vous devez bien avoir quand même des petits avantages. Écoutez, je vais vous faire une confidence. Je fais cette émission maintenant depuis, je crois, 17 ans. J'ai dû recevoir en 17 ans, je pense, des milliers d'auteurs venant de dizaines et de dizaines de maisons d'édition. En 17 ans, j'ai reçu très exactement, à titre de pot de vin, l'année dernière et l'année précédente, une bouteille de champagne pour le nouvel an qui me venait les deux fois de la même maison d'édition que je vais citer d'ailleurs, parce que c'est vrai que je reçois souvent des auteurs de cette maison qui sont des gens intéressants, et cette maison d'édition est une maison dirigée par des gens gentils, ça s'appelle les éditions du Dauphin. En dehors de ça, je n'ai jamais, absolument jamais eu le moindre signe de reconnaissance de la part d'un éditeur quel qu'il soit. Alors je vous prie de croire que s'ils ne le font pas avec les directeurs d'émission, ce dont je me félicite personnellement, parce que je serais gêné d'avoir des cadeaux, ils le font encore moins avec la radio. La radio ne reçoit aucune aide financière de qui que ce soit en dehors des adhésions. Et toute personne qui vous dira le contraire est un menteur et un provocateur. Donc il faut adhérer. Si vous écoutez cette émission, si vous écoutez les autres émissions, si vous y prenez du plaisir, ou même si ça vous énerve, même si ça vous excite les neurones, du moment que ça vous endort pas, je vous en supplie, envoyez des adhésions. Envoyez des adhésions, c'est vital pour la radio, et c'est de plus en plus vital. Et venez le 11 juin à Charenton, vous ne vous ennuierez pas, il y aura des centaines d'auteurs, et pas n'importe qui. Sur mon stand, il y aura beaucoup d'auteurs que vous aimerez retrouver, de tous les genres. Il y aura des gens qui s'occupent de choses un peu mystérieuses, des gens qui ont écrit, notamment on aura ce garçon, cet homme fascinant et merveilleux qui s'appelle Bertrand d'Aquin, qui a écrit le livre sur l'Apocalypse, enfin un livre sur l'Apocalypse. Il y aura Savary, qui est le directeur du journal du Liber Mirabilis, qui sera, j'espère, parmi nous. Je pense qu'il sera là. Il y aura bien sûr Vincent Berteret, qui présentera son dernier livre, qui est quelque chose de tout à fait remarquable sur le protestantisme. Et il y aura Roger Hollin, bien entendu. Il y aura, enfin, et bien évidemment Monsieur de Ocampo qui est là, et naturellement Dominique Hurulin qui sera également là pour peu de temps, puisqu'il va repartir dans son Amérique du Sud puisqu'il semble tellement aimer ce continent. Et puis je puis vous annoncer, j'en ai la confirmation depuis tout à l'heure, que j'aurai le plaisir et l'honneur de recevoir au stand quelqu'un que j'aurais reçu quelques 10 jours avant, pardon, à l'émission, pour son livre, dont on parlera la semaine prochaine, par conséquent, La Fête des Fous, qui a tué la Ve République, et cette personne, c'est Madame Marie-France Garraud, que j'avais déjà reçue dans cette émission, et qui avait beaucoup impressionné, non seulement les auditeurs,
mais les animateurs.
Mais les animateurs. J'ai rarement été autant flabbergasté, comme disent les Anglais.
On était trois quinquagénaires assez endurcis, vous-même, Serge de Bekesch, moi et notre cher Marquis, et on s'est avoué à la sortie qu'on était intimidés.
Ah oui, ça, c'est...
Pendant que vous buvez un verre d'eau, je rappelle que c'est le 11 juin et que c'est à l'espace Charenton, 223 rue de Charenton, Paris 12e métro, porte de Charenton. C'est sur le Bobineau, mais on ne le répétera jamais assez.
Voilà, alors de grâce, venez nous retrouver le 11 juin à Charenton, et puis d'ici là, vous avez la possibilité de nous adresser votre cotisation, votre adhésion, votre soutien. Le minimum, je crois que c'est...
Je crois que c'est 40 euros, et le plafond, je crois qu'il n'y en a pas. Il y a des auditeurs riches.
Voilà.
Et certains, d'ailleurs, se gênent pas pour envoyer plusieurs centaines d'euros. À votre liste de corruption, là, qui se montait à deux bouteilles de champagne en 20 ans, Serge, je dois à l'honnêteté d'ajouter que moi, depuis 4 ans, à force de faire mon petit numéro de promotion du Libre Journal, j'ai recueilli parmi les gens que vous recevez deux abonnements quand même.
Ah, quand même.
À 110 euros.
Deux abonnements, c'est très bien. Et je répète quand même pour ça que ce que j'ai raconté sur les cadeaux d'éditeurs, c'est pas du tout une plainte. Je voudrais pas que les éditeurs croient que je suis en train de leur dire...
Envoyez une caisse de champagne.
Non, j'ai pas besoin de ça. Je veux du champagne. Je connais suffisamment... J'ai suffisamment d'amis qui m'en offriront et je pourrais même m'en offrir une bouteille.
Nous ne buvons que du ruinard, d'ailleurs. Nous sommes bien d'accord.
Je bois aussi un peu de canard du chêne, un peu, enfin bon, des choses comme ça. Cristal Rodré, enfin, des choses intéressantes. Mais nous ne sommes pas là pour faire de la publicité à des gens qui nous feront payer leurs bouteilles trop chères. Donc c'est pas ça du tout, je veux dire. Je fais simplement état d'un fait qui est avéré et qui est à peu près, je crois, unique dans l'histoire des médias radiophoniques. Nous n'avons strictement aucune aide publicitaire, financière, de quelque façon que ce soit. Si, c'est vrai qu'un jour, un chauffeur de taxi m'a transporté gratuitement quand il a su qui j'étais. À l'arrivée, il m'a dit, monsieur de Becquet, je vous écoute tous les mercredis, je vais pas vous faire payer. Voilà. Donc, c'est un troisième pot de vin. Passons à autre chose. Passons, avant de donner la parole à Christian Beckroth, qui vient nous parler du comité du non. Ce qui paraît un peu anachronique, parce que le non, c'est déjà une vieille histoire. On va demander à notre ami Michel Delière, bonsoir Michel, de nous faire un topo, de nous exposer le plus rapidement possible, et je vais dire pourquoi tout de suite, le point de la situation de son initiative qui prend corps, qui s'appelle le mouvement néo-paysan de tradition. Pourquoi rapidement? Parce que la semaine prochaine, nous recevrons une invitée qui nous a été amené par Michel Delière, qui est Madame Florian, qui est une spécialiste de l'agriculture biologique. Et nous consacrerons toute la deuxième partie de l'émission à ce sujet, et Michel sera là et pourra nous parler beaucoup plus longuement du mouvement paysan de néo-tradition. Vous avez 10 minutes, un quart d'heure, Michel, c'est pas en 2 minutes, hein.
Bien. Alors voilà, nous sommes aujourd'hui le mercredi de dérogation. Nous avons lundi, mardi et mercredi dérogation. Et le mercredi dérogation se confond avec la vigile de l'Ascension qui aura lieu donc demain. Alors, pourquoi parlais-je de dérogation? C'est parce que la religion catholique est née à la campagne, avec des ruraux, avec des gens extrêmement simples. C'était, il y avait des pêcheurs, Saint-Pierre était pêcheur, tout le monde vivait dans un milieu paysan. La paysannerie en France a maintenant quasiment pas entièrement, bien sûr, elle reste encore par endroits, mais quasiment disparue et remplacée par une agriculture industrielle, mécanique, chimique, qui distribue abondamment les pesticides, ce qui fait que quand on compare cette agriculture d'aujourd'hui avec celle d'il y a encore 50 ans, on est passé de la paysannerie à l'industrie de la culture, l'industrie de l'agriculture. Bien, alors, Je disais donc que la dernière fois, nous avions, je résume un peu ce que j'ai dit la dernière fois, j'avais parlé de Salérance, qui est un prieuré installé dans les Alpes, où le père Avril, qui s'est occupé d'abord des Harkis, puis ensuite des Libanais, où le père Avril nous a offert au mouvement néo-paysan tradition, nous a offert la possibilité d'un développement agricole. Bien. Alors, quel est le but de l'association, de notre association? C'est de fonder un village traditionnel de montagne autour d'un sanctuaire. Et le sanctuaire à Salérance est tout trouvé, puisqu'il y a l'église Notre-Dame qui est là, et il y a un prêtre qui s'appelle le père Avril qui s'en occupe. Bien. Le village que nous projetons, enfin, qui sera un début, hein, par rapport aux autres villages, il sera composé de familles qui vont vivre en autosuffisance alimentaire. Comment? Sur une surface, sur une superficie de 3 ou 4 hectares. Et Madame Florian, la semaine prochaine, nous parlera de la possibilité pour une famille qui vend sur 3 ou 4 hectares de s'en tirer économiquement. On peut vivre, on peut survivre sur 3 ou 4 hectares. Quel est le thème de l'agriculture biologique? Pourquoi biologique? C'est parce que actuellement on peut constater qu'il y a entre 40 et 60% de personnes qui vivent en France et qui sont alimentées par l'agriculture chimique qui contractent des cancers. C'est un chiffre considérable. Ne serait-ce que 40% de Français qui contractent le cancer par la suite de la mauvaise alimentation, par les carences qui se trouvent dans l'alimentation qui est vendue dans tous les supermarchés, dans toutes les épiceries et autres hypermarchés, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Et est-ce que je peux ajouter, Michel Delière, à ce sujet, que Claude Timmermann, que vous connaissez, qui est ingénieur agricole, que les auditeurs ont entendu ici, indique dans un article qui paraît dans le prochain numéro du Libre Journal que les cancers sont deux fois plus nombreux maintenant à la vie, à la campagne, qu'en ville.
C'est exactement ce que je dis dans l'article que vous n'avez pas cité et qui est intitulé l'agriculture biologique dans le dernier numéro du Libre Journal que nos lecteurs pourront lire et où j'expose justement le fait que dans le village où j'habite, par suite des émanations de pesticides, dans toutes les familles, il y a un cancer. Et j'ai un voisin qui vient de mourir il y a quelques jours, j'étais à son enterrement, il est mort du cancer.
Il faut fuir les campagnes alors?
Il faut fuir les campagnes empestées, oui, certainement. Certainement.
Merci.
Il y a un village en Vendée, le village où je vais en vacances, il y a tout un côté de la route, toutes les maisons, du côté nord de la route, toutes les maisons sont habitées par au moins un cancéreux.
Alors, Le projet du mouvement néo-paysan tradition, c'est d'installer, enfin dans l'état actuel des choses, c'est d'installer des villages hors des zones d'agriculture intensive. Là, vous serez rassuré. Parce que dans les zones d'agriculture intensive, on attrape le cancer. Et le cancer qui s'infiltre dans la nappe phréatique, et quand on voit l'eau qui est issue de cette nappe phréatique, il y a des pesticides qui se trouvent dans l'eau. Il faut donc traiter cette eau. Si c'était pas le cas avant. Alors, il faut que je vous rappelle que dans la dernière émission, il fallait parler un peu du père Avril, qui avait fondé en 62 cette maison de Salérance pour venir en aide aux Harkis. On a parlé à l'instant, on a parlé de la guerre d'Algérie. Les Harkis ont été recueillis, enfin des Harkis ont été recueillis par le père Avril et qui s'est chargé notamment de leur évangélisation. Parce que lui se chargeait, le père Avril, d'évangéliser des Harkis. Et il a fait, célébré 200 baptêmes. Ensuite, il y a eu l'affaire du Liban, et le Liban, comme, qui en 91 a connu la tragédie que l'on sait, eh bien, il a recueilli également des enfants libanais qui ont été instruits et scolarisés à Salérance. Ce domaine fait 150 hectares et donc est mis à notre disposition. Pourquoi le retour à la terre? Alors, je vais quand même relire parce que ça, il faut quand même insister là-dessus. Le retour à la terre a été prôné par Monseigneur Lefebvre. Voici ce qu'il dit. Et je souhaite que dans ces temps si troublés, dans cette atmosphère si délétère dans laquelle nous vivons, dans les villes, vous retourniez à la terre quand c'est possible. La terre est saine, la terre apprend à connaître Dieu, la terre rapproche de Dieu, elle équilibre les tempéraments, les caractères, elle encourage les enfants au travail. Je vais donc relire encore la citation de Pie XII qui concerne justement le départ à la montagne. Pourquoi la montagne? Parce que à la montagne, on ne trouve pas les grandes plaines avec des grands tracteurs qui ont des grands bras, qui lâchent des pesticides et qui polluent à la fois l'atmosphère, les plantes et la nappe phréatique. Ce n'est pas le cas. Par exemple, Saint-Lérance, dans le domaine lui-même, a un château d'eau qui se trouve au-dessus du domaine et qui fournit de l'eau très pure, d'abord à l'œuvre elle-même, l'œuvre Notre-Dame, et ensuite qui est redistribuée au village. Donc c'est le sanctuaire qui fournit l'eau. Alors voici ce que disait le pape Pie XII. Soyez docile à la leçon de la montagne, c'est une leçon d'élévation spirituelle, une leçon d'énergie, encore plus morale que physique. L'homme ordinaire aime demeurer au ras de la terre. Vous, au contraire, vous aspirez à monter toujours plus haut, à la force des muscles, c'est vrai, mais ce désir ardent des hauteurs est au fond de votre cœur l'écho d'un besoin d'élévation de l'esprit, du cœur, de l'âme. Donc, la montagne, c'est la santé et c'est la sécurité. Si la pollution est dans les villes, si elle est dans les campagnes maintenant, notamment autour de ma maison en Seine-et-Marne, elle n'existe pas dans les montagnes. La montagne est un refuge.
Et puis comme les jeunes sont paresseux, ils hésiteront à monter, attaquer.
Si, dans cette perspective-là, le fait de s'installer à la montagne, ça ne veut pas dire qu'on sera en totale sécurité. Il y aura toujours des tentatives, mais on se défend beaucoup mieux, n'est-ce pas,
sur les pitons que dans
on se défend mieux dans les pitons que dans les plaines, ou dans les rizières.
Sauf si on a une patrouille de T6.
Ça, c'est pour trois choses, bien sûr.
Alors, actuellement, je recherche une famille nombreuse, donc qui comprend évidemment les parents et les enfants, pour une faire redémarrer la ferme de Saint-Laurent.
Un homme, une femme et des enfants, c'est
oui,
ça?
Oui, oui. Pas des paxés.
Non, hier, au théâtre des Deux Ânes, on a Pierre Douglas demandait si deux musulmans se paxent, lequel porte le voile?
Alors, je recherche donc, je lance cet appel-là, je cherche une famille nombreuse pour faire redémarrer la ferme. Déjà, nous avons le père Avril met à la disposition de cette famille une maison qui est toute installée, que j'ai visitée, qui a vraiment tout le confort. Alors, c'est à la montagne, mais il y a tout le confort.
Quelle montagne?
Ce sont les Hautes-Alpes. On s'est situé entre Sisteron, entre la Reine Sisteron et Carpentras, c'est donc à l'est du Mont Ventoux.
Très super. Oui, c'est un endroit magnifique.
Également, s'il y a des retraités qui désireraient prêter la main et venir ou provisoirement ou définitivement à Salérance pour aider au démarrage de cette ferme, ils sont donc cordialement invités. Et je vais donner dans un instant nos références. Alors, qu'est-ce que cette œuvre du mouvement néo-paysan tradition? Ça consiste au mariage entre la sainte religion catholique et l'agriculture traditionnelle bio. C'est-à-dire le retour aux sources, à la vie évangélique et patriarcale. La semaine prochaine, donc, nous verrons avec Madame Florian, nous verrons exactement, parce qu'elle c'est une personne qui est spécialisée dans l'agriculture biologique. Elle décrira beaucoup mieux que je ne peux le faire. Elle décrira exactement ce qu'est l'agriculture biologique et surtout quel est son mode de fertilisation des terres. Voilà, c'est terminé.
Merci Michel. Alors, vous donnez quand même l'adresse. Alors,
voici donc
une famille nombreuse et puis des bras.
Voici donc le mouvement.
Des retraités, mais pas forcément. Il y a peut-être des gens aussi qui sont qui seraient désireux de donner un coup de main.
Bien sûr, mais j'ai reçu nombreuses correspondances et parmi ces correspondances, il y avait des retraités qui étaient dans l'un se trouve il se trouve dans une tour à Saint-Denis et il n'est pas tellement à l'aise. Il dirait j'aimerais bien aller.
Il faut dire que l'an dernier, la population des campagnes a augmenté de 0,7% pour la première fois depuis des dizaines d'années, et que ça vient de retraités, bien sûr.
Alors, le téléphone, l'adresse à laquelle il faut vous écrire, Michel.
Alors, l'adresse, c'est Le Refuge, 77 540, Bernay-en-Brie. Le Refuge, 77 540, Bernay-en-Brie, téléphone 01 64 25 61 57. Donc, à la semaine prochaine, 19h30, je pense, Madame Florian. Merci.
J'ai sous les yeux une photographie du paysage de Saléran dans les Hautes-Alpes, d'ailleurs que j'en regrette de ne pas être retraité, et surtout de ne pas savoir faire pousser un radis, parce qu'autrement, je serais bien parti m'installer là. Christian Bécroult, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis très content de te recevoir. C'est la première fois, je crois, que tu viens
dans l'émission. Oui.
Alors là, tu viens en tant que représentant du comité du nom.
Oui, c'est...
Bon, c'est quand même un peu... Enfin, ça me paraît anachronique, parce que le comité du nom, parce que ça fait un moment qu'on se bat pour le nom.
Oui.
Bah, tu es pour le nom en 58, tu es pour le nom...
Oui, mais là, c'est la première 72. Fois que le nom l'a emporté. Alors, je trouve que quand un nom dit oui, si je puis dire... c'est utile quand même de le rappeler.
Il faut que le nom.
Non, mais donc je crois que.
En 69 aussi, ça a été non. Année érotique.
Oui, mais là, c'est un autre sujet. C'est aussi l'année de la création de l'Airbus. Hein. Mais enfin, c'est une autre chose. Puisque le 29 mai 69, je fais juste une petite parenthèse, on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est ce jour-là qu'a été signé le contrat qui a donné naissance à l'Airbus. Voilà, donc vous voyez, comme quoi le 29 mai, il n'y a pas que Constantinople, la chute de Constantinople, il y a des fois des bonnes nouvelles le 29 mai. Et merci donc à Serge Becchetti, à Radio Courtoisie, de permettre, c'est un simple rappel, c'est pas une idée révolutionnaire que on va essayer d'évoquer là, mais c'est un rappel nécessaire, parce que je crois qu'il y a eu un vote très clairement exprimé, et puis qu'on en est resté là.
Oui, ça c'est intéressant, parce qu'effectivement les commentateurs ont étouffé, comme s'ils espéraient que ça allait pas trop faire de bruit et qu'on pourrait recommencer l'arnaque un an ou deux ans plus tard.
Oui, alors le seul problème c'est qu'ils ont quelques difficultés quand même, parce que dernier sondage, pardonnez-moi, c'est pas toujours très bon, mais quand ils sont bons, après tout, pourquoi s'en priver, c'est que les partisans du non restent nonistes à 98%.
Ah oui.
Tandis que les partisans du oui, les whist, hein, ou les oui-whist, je sais pas comment, eux ils sont plus qu'à 90%, ça veut dire d'ores et déjà que, alors 98% c'est pratiquement du 100%, de l'autre côté il y en a déjà 10%, un dixième qui effectivement s'interroge et voterait sans doute différemment, ce qui veut dire que on constate une montée continue du non.
Comme dirait Raffarin, plus le non augmente chez les oui et plus les oui diminuent chez les non.
Voilà, alors mais en plus ça nous rattache à une autre préoccupation, c'est qu'effectivement ces non qui montent, hein, 5 millions en 72, faut quand même se rappeler, 12 en 92 et 15 en 2005. Alors là, je sais plus combien ils vont être 20 en 2, non, je sais plus combien on sera.
Il y aura plus assez d'électeurs pour
ça monte. Donc incontestablement, il y a un enracinement du nom, et contrairement à ce qu'on nous dit aussi, ce n'est pas l'enracinement d'un nom de gauche. Et c'est peut-être aussi sur ce point-là qu'il serait utile de réfléchir.
Est-ce qu'on peut dire que ce nom est un nom politique?
C'est pas un nom politique. C'est pas un nom, justement. Il n'est pas partisan. Parce qu'on dira peut-être quelques mots des résultats et des formations politiques à travers d'autres élections et du vote au référendum. On voit bien, d'une part, que les partis qui prônent le nom, sauf en 1972, mais là c'était particulier, il y avait l'hypothèque communiste. le Parti communiste, le PC était encore important, c'était un autre sujet. Mais que ce soit en 92 et a fortiori en 2005, on s'aperçoit que les formations qui, classiquement, ont fait campagne pour le non, ne recueillent, bon, 5 et quelques millions, hein, donc que ce soit en 92, dans les élections de 93, législatives de 93, ou dans les législatives de 2002, alors que le non lui-même fait 12 millions dans un cas, plus de 12 millions, et 15 millions de l'autre côté. Donc ce qui veut dire qu'il y a plus de la moitié des électeurs du non qui, aux élections autres, ne vont pas vers ces formations. Donc c'est à la fois une leçon d'humilité pour les partis qui ont effectivement fait campagne pour le non, ça c'était vrai, mais c'est surtout un désaveu pour les partis politiques de gouvernement, l'UMPS.
Il y a quand même des questions à se poser sur le fait que des gens qui votent non, c'est-à-dire ils sont contre la politique menée par le gouvernement, et quand on leur demande de renouveler le gouvernement ou de renouveler la majorité au pouvoir, ils revotent pour la même majorité.
Oui, mais parce que, alors le non, je sais pas d'où il vient d'ailleurs, parce qu'en fait, vas-y, je crois savoir d'où il vient. Il vient du profond, des racines, d'un enracinement. Ils sentent confusément.
Confusément quelque chose.
Ils sentent confusément parce que la communication, par contre, c'est tout bidonné. Ouais. Hein, tout bidonné parce que. Prenons les exemples, hein, on vous explique que les difficultés actuelles viennent du non. Hein. Bon, juste un chiffre, hein. On va pas trop en abuser quand même, parce que sinon on va dire que c'est l'expert comptable qui débloque. Hein. Mais, donc, un chiffre, il y a eu, en matière de commerce extérieur, cette année, un déficit de l'ordre de 120 milliards de francs. Vaut mieux parler en francs qu'en euros, parce qu'en euros, on s'en rend pas bien compte. Sur ces 120 milliards, pas tout à fait, hein, de plus qu'en 2004, plus de 60 milliards de francs ne sont pas dus au pétrole. C'est bien donc lié à l'économie, au système qu'on nous a prôné, puisque le non, certes, donc la Constitution n'a pas été adoptée, mais on vit sur le régime ancien. Or, la vraie question du non est celle sur laquelle ce n'est pas qu'un anniversaire, c'est quelque chose à construire, et là c'est pas le comité du non qui a cette prétention, c'est tous ensemble et bien d'autres encore qui pourront le faire. Mais le non, c'est pas seulement le refus de la Constitution, c'est la demande claire de reprendre la coopération européenne sur des bases saines. C'est-à-dire de tout remettre à zéro. Ce qui est bien sûr hors de question, que ce soit pour M. Prodi hier, pour M. Barroso aujourd'hui, pour M. Delors avant-hier, etc.
Hein? Mais les raisons, elles sont connues, parce que ce sont des gens qui n'ont pas de patrie. Ce sont des apatrides intellectuels, je dirais.
Oui, non, mais sont d'accord, les Français, eux, ils ont une patrie. Et on leur laisse croire. Si vous voulez, là, j'ai des coupures de presse, on ne va pas les éditer, puisque, de toute façon, on n'est pas à la télé. Hein. On ne va pas les éditer, j'allais dire les montrer, parce qu'on n'est pas à la télé. Mais prenons l'exemple de Airbus, le dernier beau succès qui était le A380, gros porteur. Mais à en croire les journaux, c'est effectivement un triomphe de l'Europe.
C'est faux.
Alors là, si vous voulez, pardonnez-moi, vous croyez qu'on peut citer la presse, bon, même la grande presse. Hein. Bon, en l'occurrence, c'était François Dorcival, que je ne le suis pas toujours, mais là, il rappelait justement dans un édito il y a quelques mois que Airbus ne s'était pas fait avec l'Europe, mais s'était fait sans l'Europe et contre l'Europe. Et il donnait notamment un livre de monsieur Bernard Rosenberg, conseiller technique, conseiller industriel de Pompidou, qui donnait tous ces éléments-là.
Quand vous dites l'Europe, monsieur Becrot, il faut être précis. Ça s'est fait, Airbus, sans les institutions européennes.
Voilà, alors, vous avez raison.
C'est un exemple magnifique de coopération européenne.
Voilà, alors c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, personnellement, j'ai tendance, quand j'écris, mais là, je suis peut-être allé un peu trop vite, de dire, je ne veux pas parler de l'Europe de Bruxelles, je peux parler de la Commission de Bruxelles, je préférerais presque parler du machin, bien que je doute qu'avec Serge, il pourrait y avoir des petits problèmes de peau à ce sujet. Mais si on accepte, si on oublie un peu le passé, le machin veut bien dire, nous ne sommes pas contre une coopération européenne, au contraire, elle devrait être développée, y compris dans des problèmes comme la recherche, par exemple. Attendez, si on emploie la recherche, non pas des directeurs de services ou de chapitres au CNRS, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui vont s'interroger sur le sexe des anges ou faire des études sur la montée de l'extrême droite en France, hein, depuis les Capétiens, je ne sais pas tout ce que vous voulez, hein, si vous voulez. Donc, une vraie recherche, il y a à faire une véritable politique dans le domaine spatial, satellite, électronique, notamment électronique militaire. Il y a à faire Donc, il y a déjà eu des tas de choses, donc beaucoup de projets, pas des tas, mais de très nombreux projets, Airbus, Ariane, le CERN et sans doute d'autres. On pourrait aussi relancer une vraie coopération eurafricaine. Vous voyez, il y a sans doute beaucoup de choses qui pourraient être faites, mais je demande effectivement bien préciser. Et c'est cette ambiguïté, c'est que l'Europe, si vous voulez, veut dire à la fois tout et le contraire de tout.
Non, je disais, la coopération eurafricaine, on fournit les seaux, ils vont chercher de l'eau.
Non. non, mais justement, oui, mais alors là, enfin, ça serait un autre sujet.
Hein. Non, mais
L'Afrique a été très mal lotie parce que d'abord, on a décolonisé, peut-être dans le désordre, on leur a imposé le socialisme, la démocratie et des frontières contre nature. Avec ce triple handicap, il est sûr que ça ne les a pas aidés. Et on voit bien qu'actuellement...
En contrepartie, on n'a pas fermé la lumière en partant.
Non, on n'a pas fermer la lumière, mais enfin bon, c'est vrai aussi que si on parle de coopération, mais ça sera un autre sujet, ça implique un respect mutuel, je ne suis pas du tout adepte de me flageller systématiquement, je laisse ça à Kerbala ou ailleurs, si vous voulez. Hein.
Et au moins de Da Vinci Code.
Peut-être, mais celui-là, comme je n'irai pas le voir, je...
D'accord, c'est le moine de Da Vinci Code, c'est quand même un beau spécimen.
Mais donc, pour en venir au problème, c'est vrai qu'on s'interroge pourquoi les gens votent pour les partis mondialistes? Parce que logiquement, les électeurs du PS qui ont voté non, ils étaient une majorité et de bonnes minorités au sein de l'UMP comme au sein de l'UDF ne devraient pas voter pour des partis qui sont partisans, enfin si oui, c'est bon, qui prônent cette Europe-là, qui prônent ce machin qui n'est que l'antichambre du mondialisme.
Bien sûr. Alors, La commission de Bruxelles, c'est quelque chose, d'abord, c'est quelque chose de complètement, irréel, quoi. C'est une espèce de, golem, une espèce de zombie, une espèce de construction de l'esprit, mais qui a des effets
qui a des effets très pervers. Alors, c'est à la fois une technocratie mondialiste très dogmatique,
et
très
vicieuse, sectaire, en plus,
et très vicieuse. C'est aussi, alors, c'est ensuite celle qui fait plein de mauvaise utilisation de thèmes comme la libre concurrence, etc., qui font une utilisation abusive de théories qu'ils façonnent sur mesure.
Ce qui est fascinant, c'est de voir parce que ces machins, qui ont employé le mot de machin, c'est vrai que la Commission de Bruxelles, c'est un machin. Mais on a l'impression que c'est désincarné et qu'en fait, ça fonctionne comme une espèce de machine automatique, une espèce de grand ordinateur qui prend des décisions. Mais pas du tout. Derrière ça, il y a des mecs qui sont véritablement au service de la bête. Oui. Il y a un type qui s'appelle Alain Lamassoure, par exemple, qui est un giscardoïde passé au socialisme, au club Jean Moulin, repassé chez Balladur, enfin un type, espèce de...
D'anguille.
D'anguille, oui, pour dire le moins. Et... qui est naturellement franc-mac. Bon, ce type, alors, type exemple des propositions que font ces gens-là. Lamassoure dit, tiens, c'est joli ça. Il propose de faire payer, de taxer, les messages par Internet, ce qu'on appelle le courriel. Alors, il dit, attendez, on va le taxer, parce que les gens commencent à râler en disant, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est ridicule, vous allez voir, c'est complètement ridicule. C'est 0,00001 euro par courriel. Alors, lui, mais c'est pas la peine. Enfin, à ce niveau-là, ça devient grotesque. C'est même pas un dix millième d'euros par, oui, dit-il, mais il y a des milliards et des milliards de courriels qui sont échangés tous les jours dans le monde. Et vous vous rendez compte les formidables revenus que ça pourrait dégager.
C'est le règne du veau d'or.
Voilà.
C'est ça,
ouais.
Alors, tout est affaire des
courriels. Non, on envoie un courriel. Bon. Mais, là-dessus, qu'est-ce qu'il fait? Il participe à une commission qui est dirigée par une Finlandaise, je crois. Et il approuve un projet qui est d'exercer la censure sur les messages Internet. Ce qui veut dire que le même bonhomme, je fais un petit papier en disant, c'est exactement comme si Vespasien avait fermé les pissotières après les avoir taxés. Il trouve une source d'argent, tac, et là-dessus, il dit aux gens, mais surtout n'utilisez pas parce que vous allez être espionnés. Donc évidemment, ce sont des esprits tordus. Ils pensent de façon modulaire et en pointillé. Tiens, on va faire ça. Et puis on va faire ça. Et on leur dit, mais attendez, ce que vous venez de proposer là, c'est exactement le truc qui va tuer ce que vous avez proposé la seconde d'avant. Eh bien, il est énarque. Il supposait être intelligent.
C'est une forme d'intelligence. Hein,
Alors, voilà les gens qui dirigent l'Europe. Voilà les gens qui dirigent la Commission de Bruxelles qui font manœuvrer.
Un auditeur accuse M. Sarkozy de préparer l'adoption de la turconstitution européenne par la voie parlementaire. Et il y en a un autre qui nous dit on fait comme si on n'avait pas voté non. Alors moi, effectivement, j'ai remarqué que j'entends régulièrement la radio. Ah, il y a beaucoup de Français qui ont voté non. Il faut en tenir compte. Mais j'entends surtout dire, il n'y a pas de plan B, sous-entendu bande d'abrutis, il n'y a pas de plan B, on vous fera comme aux Danois, revoter et revoter jusqu'à ce que vous vous soumettiez. J'ai bien compris.
Mais je pense qu'effectivement, il s'agit bien d'un problème quand même d'actualité, ce n'est pas que le passé. On va essayer de nous faire passer le bébé sous une forme ou sous une autre.
Ça explique votre comité du nom.
Ah ben oui, enfin bon, mais il faudrait, alors pardonnez-moi, je ne voudrais pas paraphraser le chef, si vous voulez, mais il faudrait qu'il y ait 1000 comités du nom qui se créé d'une façon tout à fait spontanée, anarchique, mais pour aller dans le même sens et sensibiliser les gens, à la limite, mais malheureusement, il n'y a plus assez de paysans, parce que dans certains cas, prendre les fourches était des fois une bonne solution pour faire respecter le vote populaire. Hein. Mais bon, je ne sais pas jusqu'où il faudra aller, mais c'est une opération tout à fait en cours. Ils ne renoncent à rien. Hein. Bien sûr qu'ils vont y aller. Et la modeste comité du nom que j'évoque à l'instant est une nécessité qu'il faut multiplier. Hein. Donc, mais pour en venir au problème du machin de Bruxelles, il est très dogmatique. Hein. Bon, dans une première étude que nous avons faite, nous rappelons des choses qui n'ont rien de sorcier, hein, que beaucoup d'auditeurs doivent connaître, celles les phrases de Dulles, hein, secrétaire d'État américain, qui prône entre autres la liberté d'immigration dans le monde entier, l'élimination progressive de toutes les restrictions douanières au commerce mondial et une banque mondiale. Ça, c'était en 1942. Hein. Quelques années après, ça devait être quand? C'était cité par entreprise en 70. C'est le baron Edmond Rothschild qui dit, dans ces conditions, la structure qui doit sauter, c'est la nation. Donc on voit bien qu'il y a, comme tu l'évoquais tout à l'heure, des gens qui, derrière ce côté obscur, lourd, bureaucratique, etc., ont un objectif qu'ils suivent et dont ils ne veulent absolument pas dévier. Hein. Donc il y a cela. Il faut savoir que, on reviendra ensuite à quelques exemples concrets pour que les auditeurs puissent sentir comment ils peuvent, dans certains cas, manœuvrer, bien comprendre aussi que les commissaires se sentent au-dessus de la mêlée. Hein. Je citerai tout à l'heure une réponse qui a été faite à Bruno Gollnisch à propos de Halkan Pechiney, hein, par exemple. Je la citerai, je ne la lirai pas parce que... Bon. Mais ils sont au-dessus de la mêlée, ils sont entre eux. Après leurs travaux, leur poste à la commission, on les retrouve pantouflant dans les conseils d'administration. Alors je crois que c'est pas inutile, c'était Jean-Claude Martinez entre autres qui l'est cité dans son livre, hein. Mac Chary, commissaire à l'agriculture, on le retrouve au conseil d'administration du trust céréalier Cargill. Il me semblait que normalement, même dans la fonction publique en France, il y a des délais de carence dans lesquels on ne peut pas occuper tel ou tel poste. Je pense que quand ils quittent, hein, ils vont tout de suite toucher.
Non, mais c'est... Pardonne-moi, mais je crois que c'est une erreur. On croit que ce sont des gens qui sont à la commission et qui quittent la commission pour entrer au service d'une société. Mais c'est pas ça. C'est des gens qui sont au service d'une société.
Ils vont à la commission.
Qui rentrent dans la commission.
D'accord. Non, mais je crois que c'est vrai. On peut le dire de la
même.
On peut le dire
avant.
Léon Britain, négociateur pour l'Europe. Oui. On le retrouve là aussi au conseil d'administration d'Unilever. Bon, monsieur Pascal Lamy, négociateur européen, est devenu le patron. Alors là, justement, de ce qui devrait être l'adversaire de la commission, du moins l'adversaire.
La
commission devrait faire contrepoids, c'est-à-dire l'Organisation mondiale du commerce. Et on continue, donc...
Barrot. Mickey,
hein? Barrot. Oui, mais je ne sais pas s'il n'est pas encore entré dans un fromage.
Enfin, il a bien dit que vous allez encore nous ennuyer avec ces histoires de nation.
Ah ben oui, ah non, mais ça que la nation les ennuie, c'est sûr. Non, là, j'étais sur le côté copain-coquin.
Ah, hein?
Bon,
Oui,
mais là, c'est Mickey Cantor et Léon Britain qui sont tous les deux des Baltes, du même état de Baltes d'origine.
Ah, c'est des Baltes.
Oui.
Baltes.
Baltes, oui.
Des Baltes perdus.
Des Baltes perdus.
Mais non, c'est des Baltes, pas des Baltes.
Ah oui, c'est des Baltes.
Bon. Et la même
qui
chose...
Qui y a d'autres? Ah, monsieur Lamy aussi est Baltes.
Ah non, mais alors, Lamy...
Pas Baltes, oui.
Non, il n'est pas Baltes, lui. Il était socialiste. C'est un con.
Oh, il est bien Baltes.
Mais il était effectivement très copain avec Zuelik, qui était le négociateur américain. Non, je sais pas, spécialement. Non, a priori, il est pas.
C'est des noms baltes, tout ça.
C'est le balte des vampires.
Non, non. Mais qui sont des, mais ils se vantent d'être des amis depuis 12 ans, hein, depuis 10 ans, etc., si vous voulez. Mais donc, revenons-en aussi aux manipulations, on a évoqué Airbus tout à l'heure. Bon, je ne reviens pas trop dessus. Juste un point. On nous dit, ah, mais vous comprenez, on est bien obligé de défendre la libre concurrence. D'ailleurs, je n'ai pas compris en quoi. Moi, je pensais que l'économie était au service de l'homme. La libre concurrence peut être une bonne chose. Et dans certains cas, il peut y avoir une liberté limitée si c'est l'intérêt, le bien commun. Mais là, c'est un dogme. Mais c'est un dogme en plus vicié. Parce qu'on est dit, ah oui, mais vous, les États européens ne peuvent pas subventionner Airbus, hein? Parce que ça serait contraire à la libre concurrence. Ah oui, le seul problème, c'est qu'Airbus, c'est civil quand même, principalement. Hein. Les Américains n'ont pas le problème. Boeing, hein, si vous voulez. Donc,
oui, parce que Boeing, c'est militaire.
Eh bien, Boeing avait, attendez, là, j'ai l'article, mais enfin, ça devait donner dans les... Il devait avoir 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2003, pardonnez-moi, je n'ai pas les chiffres de 2005. Et puis, au niveau du civil, c'était 22 ou 23 milliards. Hein. Là-dessus, le civil perd 1,5 milliard de dollars. Donc, mais compte tenu des carnets de commandes, on sait qu'il va perdre. Mais en même temps, il suffit que l'US Navy, l'US Air Force, ou je ne sais qui, ou voir pourquoi pas l'aviation des Marines, commande quelques dizaines d'appareils supplémentaires. Et donc, à partir de ce moment-là, incontestablement, on peut y aller. Le civil baisse de 6% ou de 5,6%. Le militaire, lui, progresse de 11%. Ce ne sont pas des subventions déguisées. Ouais. La concurrence, c'est parfait. Les Américains, eux, savent s'en tirer. Et nous, on est piégés.
Est-ce qu'il y a un endroit où on peut s'adresser à toi pour...
On peut toujours envoyer ça au comité du nom français, 43 route de Saint-Germain. 78 860 Saint-Nom-la-Bretèche. Et si j'ai beaucoup de courage, et si ma secrétaire sait le faire, parce que moi j'en suis totalement incapable, on pourrait même faire un site internet, mais enfin on n'en est pas là, mais bon, éventuellement, on peut effectivement faire suivre déjà une première étude qui a été faite, mais qui concerne beaucoup plus l'analyse du vote, alors que l'essentiel, c'est quand même de veiller aujourd'hui à la désinformation dont nous sommes, à laquelle nous sommes soumis en permanence, et préparer des actions de contre, y compris d'enfariner les menteurs. Oui, ça pourrait être une solution pour les jeunes gens agiles.
Enfarinons les enfoirés. Merci Christian, merci beaucoup.
Merci Serge, et merci Roger, à Radio Courtoisie.
Oui, tu as une annonce à faire.
Oui, je voulais annoncer que le samedi 27 mai, à France Livre, 6 rue du Petit Pont à Paris 5e, de 15h à 18h, je signerai mon dernier livre, La guerre psychologique et les nouveaux collabos. Et puis j'ai annoncé, malheureusement, c'est le même jour que la fête de Radio Courtoisie, mais on peut aller l'après-midi à notre fête qui commence, c'est la fête du Cercle National des Combattants. C'est la 20e fête, grande fête familiale, de 10h à 19h à Grand Maison, 78-450 Villepreux. C'est à 20 km de Versailles, de Paris. Tout le monde connaît le château de Grand Maison. Alors 10h30, messe traditionnelle, 12h, cérémonie des couleurs, ensuite stand, boisson, repas assis pour ceux qui se font inscrire au CNC, stand de boisson, sandwich, foie gras, fruits, livres, affiches. À 15h30, spectacle, à 16h30, je fais une intervention, 17h, discours de Jean-Marie Le Pen. Alors, inscription obligatoire au CNC pour les repas assis et inscription également pour les gens qui veulent prendre le car. Alors, tout renseignement, 01 40 59 07 66. 01 40 59 07 66. L'entrée est à 8€ pour les adultes, 5€ pour les enfants. Il y a un immense parking. Le parking est gratuit.
Merci. Alors, Roger.
Le 11 juin 2006, à Grand Maison, à Villepreux.
Merci Roger. Un dernier mot, très vite, le livre de Dominique Hérulin, La Grande Piste, on peut le trouver
sur Reconquête.
Qui est paru aux éditions de La Reconquête. On peut le trouver à France Livre, je crois. Peut également le commander au Libre Journal. On envoie simplement 32€. 4 places France Titre, 75-010 Paris. C'est un peu long parce qu'il faut le faire venir.
À l'ordre de.
À mon ordre parce que Serge c'est plus simple, parce que j'encaisse et je précise que c'est totalement bénévole ce que je fais. Donc, il faut que j'envoie l'argent ensuite au Paraguay, qu'on m'envoie les livres. C'est un peu long.
30 euros, vous avez dit
32 euros.
32.
C'est-à-dire le prix du livre plus le prix du port. Mais vous le trouverez le 11 juin à Charenton. Merci de votre écoute, de votre patience, de votre amitié. Merci à tous mes invités d'avoir été si passionnants, j'ai trouvé. À la semaine prochaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Beketch, diffusé en direct mercredi 24 mai 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 25 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par...